Bonjour à mon auditoire. Parlons à notre Seigneur maintenant. Grand Dieu, Créateur des cieux et de la terre, qui ce matin nous a divinement assigné ce moment pour t'adorer. Et puissions-nous, Seigneur, du fond du cœur, nous abandonner complètement à ta volonté divine et à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, afin d'apporter ce que tu voudrais nous faire connaître. Notre désir, c'est d'être de meilleurs chrétiens et de meilleurs représentants de toi. Veux nous l'accorder ce matin, alors que nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous sommes très heureux d'être ici encore ce matin, au service du grand roi. Et nous sommes désolés de, encore une fois, de ne pas avoir assez de place pour les gens. Mais on va essayer de faire le mieux possible, compte tenu des circonstances. Maintenant, beaucoup ont des mouchoirs et des requêtes qui ont été déposées ici pour qu'on prie sur eux. Et je les pose simplement à côté, pas parce que je n'en tiens pas compte, mais je prie surtout pour eux après que je... comme... et ce soir. Je le ferai ce matin, et puis encore ce soir, quand... à ce moment-là, je prierai et je m'attendrai à l'Esprit de Dieu pour la guérison. Et c'est là que j'aime prier sur les mouchoirs et tout. Et pour ce qui est des requêtes spéciales, Billy me les a remises, chacune d'elles. Il y en a environ 300. Et je viens juste de sortir des salles d'entretien, là. Vous voyez, je m'en occupe vraiment au plus vite. Et de toutes celles que je peux. Et je vais m'en occuper aussi rapidement que possible. Je ne pourrai pas les voir toutes. J'étends la main simplement, et je dois en prendre une. Je dis, Seigneur, est-ce que ce sera celle-ci, et est-ce que ce sera celle-là? Juste comme ça, parce que ce sont, chacune d'elles, des besoins, de vraies requêtes, quelque chose, sans aucun doute, dont nous devrions parler ensemble. Et je, à moins que, vous savez, parfois le Saint-Esprit peut dire, il y en a une en particulier que j'aurais lue et que j'aurais constamment à cœur. J'y retourne de nouveau. Je cherche jusqu'à ce que je la trouve. Autrement, je les prends comme ça, au hasard. Maintenant, nous voulons aussi dire ce matin et saluer ceux qui sont là dans les autres régions du pays. Nous voulons saluer les gens ce matin qui nous sont reliés par téléphone à New York, à Beaumont, au Texas, à Prescott, en Arizona, à Tucson, en Arizona, à San Jose, en Californie, dans le Connecticut, à Gainesville, en Géorgie, et à New Albany, en Indiana, d'un bout à l'autre du pays. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Ce matin, en Indiana, c'est une belle matinée. Nous avons eu une averse la nuit dernière, ce qui a rafraîchi la température. Et nous, le tabernacle est plein craqué, et tout le monde attend, avec beaucoup d'impatience, la leçon de l'école du dimanche. Et j'ai confiance que les plus riches bénédictions de Dieu reposeront sur vous là-bas. Et on espère, dès que possible, trouver un moyen de pouvoir tous se rassembler, peut-être sous une grande tente, où je me sens très nettement conduit à prêcher sur les 7 dernières coupes de la Bible. Donc, maintenant, pour que nous ne passions pas trop de temps sur cette grande leçon de ce matin, j'ai cherché le Seigneur. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire, en sachant que ceci pourrait être la toute dernière réunion que nous aurons. La venue du Seigneur est tellement proche. Je vois, après cette prédiction qui a été faite en Californie, qu'il y a des maisons là-bas et des établissements qui s'enfoncent à raison de 76 cm à l'heure. Les madriers qui craquent et qui cèdent. Et ils ne savent pas à quoi c'est dû. Nous sommes à la fin. Des maisons de 100 000 $ qui s'enfoncent. J'ai des gros titres du journal, des photos que j'espère apporter ce soir, vu que je veux parler de quelque chose en rapport avec cela ce soir. Et ce soir, nous allons aussi prier pour les malades. Venez cet après-midi à 5h, 6h ou à l'heure qu'on aura fixé. Nous allons commencer de bonne heure, je pense, pour que les gens puissent partir de bonne heure. Et venez chercher vos cartes de prière, et nous prierons pour les malades ce soir, si le Seigneur le veut. Maintenant, après avoir été en prière à me demander, qu'est-ce que je dois faire? en sachant qu'un jour, je devrais répondre de ce que je dis ici. J'ai décidé, ou je me suis senti conduit par le Saint-Esprit à parler de la prophétie ce matin, pour nous renseigner en quelque sorte. Voyez, c'est quelque chose que nous, si nous ne sommes pas renseignés et que quelque chose arrive, comme ça, en passant, nous devrions être au courant. Le Saint-Esprit nous a donné cela, de prévenir les gens des choses à venir. Vous savez, la Bible a dit que Dieu ne fera rien sans le montrer d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Et comme Jésus qui a prévenu les gens au sujet de ce qui se produirait, comme les prophètes qui ont prévenu les gens que cela se produirait. Aussi, il est de notre intérêt en ce moment, en cette grandeur dans laquelle nous vivons, de voir dans quel âge nous vivons et ce qui arrive, ce qui va arriver dans cet âge. Donc, un de ces sujets inhabituels que nous avons peut-être lu bien des fois, il m'est venu à cœur d'en parler aux gens ce matin. Maintenant, dans nos Bibles, prenons Matthieu au chapitre 24 et lisons un extrait de la parole. Excusez-moi. C'est ce qui va servir de contexte pour notre thème, notre sujet. Maintenant, souvenez-vous, nous allons l'enseigner comme une étude biblique, lentement. Sortez vos crayons et vos papiers. J'ai noté beaucoup de passages de l'Écriture ici. Alors, vous pourrez les prendre en note. Ensuite, rentrez chez vous et étudiez-les, parce que c'est exactement comme une leçon de l'école du dimanche, pour que nous puissions connaître, être prévenus et préparés pour les heures dans lesquelles nous vivons. Dans l'évangile de Matthieu, excusez-moi, le verset 24, ou le chapitre 24 plutôt, en commençant au verset 15, je désire lire un extrait de sa parole. Et c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit, toi, ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Maintenant, comme sujet, j'aimerais prendre le verset 24 et insister tout particulièrement sur ce verset pour notre leçon de l'école du dimanche de ce matin. Écoutez attentivement pendant que je le relis encore. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Maintenant, comme sujet ce matin, ou comme thème plutôt, je veux prendre les oints du temps de la fin. C'est le sujet sur lequel je veux parler, ou le thème, les oints du temps de la fin. Je crois que nous vivons au temps de la fin. Je pense que presque tout le monde celui qui lit les Écritures, ou même qui est un croyant, sait que nous sommes maintenant à la fin de l'histoire du monde. Il ne servira à rien de l'écrire, parce qu'il n'y aura personne pour la lire. C'est la fin du temps. Quand exactement? Je ne sais pas. Dans combien de temps exactement ce sera? Pas même les anges des cieux ne connaissent cette minute ou cette heure. Mais il nous a été dit par le Seigneur Jésus que quand ces choses que nous voyons maintenant commenceraient à arriver, alors de redresser nos têtes, parce que notre rédemption approche. Maintenant, ce que veut dire « approche », je ne sais pas. Ça peut vouloir dire, comme les hommes de science le disaient l'autre jour à la télévision, en parlant de cette grande faille dans la Terre, de plusieurs milliers de kilomètres de long, qui va s'enfoncer. On lui a posé la question, ça pourrait s'enfoncer là-bas, c'est-à-dire Los Angeles, la côte ouest, et beaucoup d'entre vous ont vu de quelle manière ils l'ont suivi par radar, et ça montait en passant par, ça s'est fissuré en dessous de San José. Ça a traversé jusqu'en Alaska, à travers les îles Aléoutiennes, à environ 300 kilomètres au large des côtes, et c'est redescendu pour passer par San Diego. Ça a fait le tour derrière Los Angeles, et c'est remonté là, ça forme un grand sac. Et tous ces tremblements de terre qu'on a eus, c'est dû aux activités volcaniques dans cette espèce de grande louche creuse, là. Je ne me souviens plus du nom qu'ils lui ont donné. Mais toujours est-il que quand il y a des secousses là, ça produit ces tremblements de terre qu'on a depuis des années sur la côte ouest. Maintenant, c'est fissuré tout le tour. Et les hommes de science disaient, l'un d'eux, cet homme disait à l'autre, ça pourrait s'affaisser? Il a dit, pas ça pourrait, mais ça va s'affaisser. Il a dit, mais pas dans notre génération peut-être. Il a dit, d'ici 5 minutes ou d'ici 5 ans. On ne sait pas quand exactement. Cette semaine, on m'envoyait les gros titres d'un journal, des grosses maisons de 100 000 $ qui craquent et qui se fissurent, et les gens qui déménagent et ne savent pas comment arrêter ça. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ça. Vous voyez, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut lui dire comment faire. Vous construisez des maisons, vous pouvez faire des choses par la science. Et c'est Dieu qui est le créateur de la science. Comment allez-vous faire pour l'arrêter? S'il le veut, il peut détruire la terre par des puces ce matin. Vous vous rendez compte? Il pourrait créer des puces par sa parole. Et dans l'espace d'une demi-heure, il y en aurait 65 kilomètres d'épais. Vous voyez, il n'y a pas. Elle dévorerait les gens sur place. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est tout. Il est souverain par lui-même. Maintenant, devant toute cette accumulation de preuves, quant à l'heure dans laquelle nous vivons en ce moment, je pense qu'il est bon d'étudier ces choses et d'en faire un tableau, maintenant que les sceaux ont été ouverts, et de bien voir la vérité de ces choses, puisque Dieu a été si loyal envers nous, de nous montrer ces choses par sa grâce. J'aimerais que vous remarquiez ici, dans Matthieu 24, Jésus a utilisé le terme de Christ, C-H-R-I-S-T-S, des Christ. Pas Christ, mais des Christ, au pluriel, pas au singulier, des Christ. Donc, le mot Christ veut dire le oint. Et alors, s'il s'agit de oint, il n'y en aura pas seulement un, mais plusieurs qui seront oints. Les oints, voyez? Autrement dit, s'il voulait l'expliquer pour qu'on le comprenne un peu mieux, il dirait, dans les derniers jours, il s'élèvera de faux oints. Or, cela semble presque impossible, vous voyez, ces termes de oint. Mais remarquez les mots qui viennent tout de suite après. est de faux prophète. P-R-O-P-H, E accent grave, T-E-S, au pluriel. Maintenant, un oint, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire par un prophète oint. Il s'élèvera des faux enseignants oints. Un prophète enseigne son message. Des enseignants oints, des gens qui sont oints, mais avec un enseignement faux. Des oints, des Christs au pluriel, des prophètes au pluriel. Et si un Christ au singulier, cela existe, alors ceux-là, il faudra qu'ils soient des oints. Et c'est la prophétie de ce qu'ils enseignent qui fera la différence. Parce que ce sont des oints, ils sont oints. Vu que c'est une leçon de l'école du dimanche, nous voulons essayer de vraiment confronter tout ça avec les Écritures. Non pas avec ce que quelqu'un d'autre en a dit, mais juste en lisant les Écritures. Vous allez peut-être dire, comment est-ce possible? Est-ce que les oints, qu'est-ce qu'ils étaient? Des Christs, C-H-R-I-S-T-S, oints. Des Christs et des faux prophètes. Des oints, mais des faux prophètes. Jésus a dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, croyez-vous que cette onction sur ces gens, ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit? Oui, monsieur. Le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne, et pourtant, ils sont faux. Maintenant, écoutez attentivement pour voir ce qu'il a dit. Ils feront des prodiges et des miracles, au point que cela séduirait même les élus si c'était possible. Et ils sont oints du véritable Saint-Esprit. Je sais que ça a l'air insensé, mais on va prendre le temps de l'expliquer par la parole. Que c'est absolument ainsi dit le Seigneur, la vérité. Prenons maintenant dans nos Bibles, pendant un instant, Matthieu au chapitre 5, et commençons au verset 45, et on va voir là, alors que nous passons quelques instants à lire ces passages de l'Écriture. Et ensuite, quand nous en serons arrivés là, eh bien, nous vous donnerons, pour que vous, si nous ne les lisons pas tous, alors vous pourrez prendre votre Bible, et vous pourrez aussi les lire quand nous serons partis d'ici, que vous serez rentrés chez vous, et vous lirez ce que la Bible dit là-dessus. Maintenant, on va prendre notre temps pour comprendre une réalité fondamentale. Parce que je fais ici une déclaration qui est saisissante. Comment le Saint-Esprit peut-il oindre un faux enseignant? Mais c'est ce que Jésus a dit qu'il arriverait. Donc, Matthieu chapitre 5, au verset 45, lisons maintenant. Commençons un peu avant, au verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. La pluie tombe sur les méchants comme sur les bons. Maintenant, pour faire suite à ça, avec une autre prophétie qui s'y rapporte, prenons maintenant Hébreux chapitre 6, pour le prochain verset complémentaire là-dessus. Alors que Paul évoque la même chose que ce que Jésus a dit. C'est Paul qui parle ici. Pendant que vous le cherchez, et vous, là-bas sur les ondes, prenez vos Bibles à côté de vous, avec un bout de papier et aller vérifier ça. Hébreux, chapitre 6. Paul, qui écrit aux Hébreux, il leur montre les ombres et les types. Il les fait passer du judaïsme au christianisme. Il leur montre que toutes les choses anciennes ne faisaient que préfigurer les choses à venir. C'est Paul qui parle ici, Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, C-H-R-I-S-T, au singulier, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement, des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Je veux attirer votre attention juste un instant. Avez-vous remarqué, c'est le don et non pas des dons, participant des dons célestes. Mais c'est le don céleste au singulier, Christ au singulier, le don au singulier. Don céleste, eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté de la parole de Dieu. Goûté de quoi? La parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, se soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsque, écoutez, une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, pour produire une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe aux bénédictions de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Maintenant, comparez ça avec Matthieu 5, 24 de nouveau. Remarquez, Jésus a dit que la pluie et le soleil viennent sur la terre, que Dieu les envoie pour préparer la nourriture et tout pour les gens de la terre. Et la pluie est envoyée pour la nourriture, les herbes, mais livrée, la mauvaise herbe, comme elle est dans le champ, elle reçoit la même chose. La même pluie qui fait pousser le blé, c'est cette même pluie qui fait pousser la mauvaise herbe. Quelle leçon j'ai eue à ce sujet-là une fois, quand j'ai eu ma première rencontre avec les pentecôtistes. Cela a été une grande leçon pour moi. J'ai vu deux hommes. L'un, je n'avais jamais entendu parler en langue. L'un parlait en langue, l'autre donnait l'interprétation, et vice-versa. Et c'était la vérité. Ça disait que beaucoup de gens ici devraient se repentir ce soir. Il y a des femmes et des hommes, les deux. Et les gens se levaient et allaient à l'autel. Je me suis dit, que c'est glorieux. Et ensuite, à l'aide du petit don du Saint-Esprit, j'ai parlé à ces hommes. Juste, vous savez comment, par le discernement, juste un petit moyen de savoir. Et l'un d'eux était un véritable chrétien, et c'était un vrai serviteur de Christ. Et l'autre était un hypocrite. Et l'un d'eux, celui qui était un hypocrite, il vivait avec une femme aux cheveux noirs, et sortait avec une qui était blonde, et il avait eu des enfants avec elle. Eh bien, c'était en plein là, dans la vision. On ne pouvait pas le nier. Et je lui en ai parlé. Il m'a regardé et il est reparti en longeant le bâtiment. Là, j'étais vraiment désorienté. Je pensais être arrivé chez des anges. Et après, je me demandais si je n'étais pas parmi des démons. Comment était-ce possible? Je n'arrivais pas à le comprendre. Et pendant des années, je ne me suis plus occupé de ça. Jusqu'au jour où George Smith, le garçon qui sort avec ma fille, hier, on est allé là où il y a le vieux moulin, à l'endroit où je vais prier. Et après avoir passé quelques jours là-bas, le Saint-Esprit m'a ramené ce passage de l'Écriture à la mémoire. Car la pluie tombe souvent sur la terre pour y produire de l'herbe. Mais les épines et les chardons vivent de cette même pluie et on finit par y mettre le feu. Ils vivent de la même source vivifiante de Dieu. Là, je l'ai compris. C'est à... Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Bon, donc, la pluie qui tombe sur la végétation naturelle de la terre est un type de la pluie spirituelle qui donne la vie éternelle, alors qu'elle tombe sur l'Église. En effet, nous l'appelons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et c'est une pluie qui se déverse de l'Esprit de Dieu sur son Église. Remarquez, c'est quelque chose de vraiment étrange, là. Voyez, quand ces semences ont été mises en terre, quel que soit le moyen par lequel elles se sont retrouvées là, c'était des épines pour commencer. Mais là, le blé qui a été mis en terre et les herbes, c'était des herbes pour commencer. Et chaque herbe, en se reproduisant, a montré qu'elle était dans le commencement originel. Et ils séduiront les élus si c'était possible, parce qu'ils reçoivent la même pluie, la même bénédiction. Ils font les mêmes prodiges, les mêmes miracles, voyez? Ils vont séduire ou séduiront les élus si c'était possible. Or, une épine ne peut pas s'empêcher d'être une épine. Et le blé non plus ne peut pas s'empêcher d'être du blé. C'est ce que le Créateur de chacun a décidé au commencement. Voilà les élus. La même pluie. Le soleil se lève le matin et couvre toute la terre, comme il le fait en ce jour que nous vivons sur cette terre. Et le soleil, le même soleil qui se lève à l'est, c'est ce même soleil qui se couche à l'ouest. Et le soleil est envoyé pour faire mûrir le grain sur la terre, ce dont nos corps sont composés. Nous vivons de substances mortes. C'est le seul moyen pour vous de vivre. Et si quelque chose doit mourir chaque jour pour que vous puissiez vivre dans le naturel, alors n'est-il pas vrai que si votre corps doit vivre de substances mortes pour sa vie naturelle, alors vous devez avoir quelque chose qui meurt dans le spirituel pour sauver votre vie spirituelle. Et Dieu s'est fait matière, chair, et il est mort pour que nous puissions vivre. Il n'y a aucune église qui puisse vous sauver, ni rien d'autre au monde que Dieu. C'est la seule chose dont ils vivent. Maintenant, suivez le fil des Écritures. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a vécu, elle a habité parmi nous. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, physiquement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, vous voyez, nous vivons de la parole, et elle est Dieu. Donc, le soleil atteint le grain et le fait mûrir. Or, il ne peut pas le faire mûrir tout d'un coup. En continuant d'avancer vers la maturité, il mûrit continuellement, jusqu'à ce qu'il devienne un épi complet. C'est la même chose aujourd'hui avec l'Église. Elle a commencé à ses débuts à l'âge des ténèbres, quand elle était sous terre. Elle a grandi et elle est maintenant à maturité. Et nous pouvons le voir parfaitement de quelle manière Dieu, toujours, par la nature. Il ne faut pas perturber la nature. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. On fait sauter des bombes, et là, dans l'océan, on brise et on fait tout éclater partout avec des bombes atomiques. Vous ne faites que détacher de plus en plus de morceaux de cette terre, tout le temps, en lançant ça dedans. Abattez les arbres, les orages vont vous surprendre. Endiguez le fleuve, il va déborder. Il vous faut trouver le moyen de Dieu de faire les choses et vous y tenir. Par des dénominations, on a fait entrer les gens dans les églises et les organisations. Et regardez ce qu'on a récolté. Tenez-vous-en aux moyens pourvus par Dieu. Mais vous voyez, il fait pleuvoir, pour revenir à notre sujet, sur les justes et sur les injustes. Jésus vous dit ici, dans Matthieu 24, là, que ce serait un signe du temps de la fin. Or, si ce signe, on ne le connaîtra qu'au temps de la fin, alors il faudra que ce soit après l'ouverture des sceaux. Voyez, c'est un signe de la fin. Ce serait, quand ces choses arriveront, ce sera au temps de la fin. Et ce sera un signe, là, pour que les élus ne soient pas dans la confusion face à ces choses. Vous le voyez? Alors il faut que ce soit révélé, dévoilé. Remarquez, les deux, le blé et la mauvaise herbe, vivent de la même onction du ciel. Tous les deux se réjouissent à cause d'elle. Je me souviens de ça. Je reviens à ce qui s'est passé ce jour-là, là-bas à Green's Mill. J'ai vu apparaître cette vision. Et il y avait une terre immense. Et elle était toute hercée. Et un semeur est sorti en premier. Je veux bien vous faire voir ça. Regardez bien ce qui sort en premier et ce qui vient après. Et comme cet homme vêtu de blanc est arrivé de l'autre bout de la terre, en semant de la semence. Après, un homme est arrivé derrière lui. Il portait des vêtements foncés. Il avait l'air très sournois. Il se glissait furtivement derrière lui, en semant de la mauvaise herbe. Et au même moment, j'ai vu les deux récoltes pousser. Et quand elles ont poussé, l'une, c'était du blé, et l'autre, c'était de la mauvaise herbe. Alors, il y a eu une sécheresse. Et alors, on aurait dit que les deux avaient la tête penchée, en train de pleurer pour qu'il pleuve. Ensuite, un gros nuage a couvert la terre, et il a plu. Et le blé s'est redressé et a dit, « Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur !» Et la mauvaise herbe s'est redressée et s'est écriée, « Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur !» Les mêmes résultats. Tous les deux étaient en train de périr. Tous les deux se mouraient. Et donc, le blé est sorti et il avait soif. Alors, étant donné qu'ils étaient dans le même champ, le même jardin, le même lieu, en dessous du même jet, le blé a poussé et l'ivraie a poussé grâce à exactement la même chose. Remarquez, la même eau d'onction qui produit le blé produit la mauvaise herbe. Le même Saint-Esprit qui oint l'Église, qui leur donne le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles. Il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même esprit. Il n'y a vraiment pas moyen de l'expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24, 24. Il a dit, il s'élèvera de faux Christ, des oints faux, oints de la chose véritable, mais ils en seraient de faux prophètes, de faux enseignants. Qu'est-ce qui fait qu'un homme voudrait être un faux enseignant de quelque chose qui est la vérité? Là, nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes. Et vous allez voir que c'est la dénomination. Voyez? Des faux enseignants, des faux oints, des Christ oints, mais des faux enseignants. Vous ne pouvez pas le voir autrement. C'est comme ici, il y a quelque temps, j'ai déjà raconté ça. Je pourrais peut-être le raconter, vu qu'on est relié un peu partout dans le pays. Un jour, je parlais à un de mes amis, à un endroit qui est en ligne avec nous ce matin, en Arizona. Et il avait une exploitation d'agrumes. Et là, il y avait un arbre qui était un oranger et qui portait des pamplemousses et des citrons, des mandarines, des tangelots. Et je ne me souviens plus combien de fruits différents il y avait sur cet arbre-là, à lui seul. Et j'ai dit à cet homme, j'ai dit, « Comment ça? C'est quelle sorte d'arbre, ça ?» Il a dit, « L'arbre, en lui-même, c'est un oranger. » J'ai dit, « Comment se fait-il qu'il porte des pamplemousses? Pourquoi est-ce qu'il porte des citrons ?» Il a dit, « Ils sont greffés dessus. » J'ai dit, « Je vois. Bon, eh bien, j'ai dit, « Maintenant, l'année prochaine, quand cet arbre va donner une autre récolte de fruits, D'ailleurs, ils mûrissent à peu près tous en même temps. J'ai dit, à ce moment-là, il va produire rien que des oranges. Si c'est un oranger porteur d'oranges navelles, il va produire des oranges navelles, n'est-ce pas, monsieur? Il a dit, non, monsieur, chaque branche qui a été greffée va produire selon son espèce. J'ai dit, vous voulez dire que cette tige de citronnier va produire du citron sur cet oranger? Il a dit, oui, monsieur. Est-ce que celle de pamplemoussier va produire du pamplemousse sur cet oranger? Il a dit, oui, monsieur. C'est ça, la nature de la branche qui a été greffée dessus. J'ai dit, gloire à Dieu. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, une dernière question. Maintenant, est-ce qu'un jour cet oranger va redonner des oranges? Il a dit, quand il va produire une autre branche. Quand lui va produire une autre branche. Pas quand il y en aura une de greffée dessus. Seulement, ce sont tous des agrumes. Et ils vivent de cette vie d'agrumes qu'il y a dans cet arbre porteur d'agrumes. J'ai dit, voilà, les méthodistes produiront des méthodistes à tous les coups. Les baptistes produiront des baptistes à tous les coups. Les catholiques produiront des catholiques à tous les coups. Mais l'Église du Dieu vivant produira Christ à partir de la racine, la parole, à tous les coups, si un jour elle produit une autre branche qui lui est propre. Donc, vous pouvez faire une greffe dessus, vous voyez. Tous les pamplemousses, les citrons, les tangelots, les mandarines, n'importe quel agrume. Ils peuvent tous vivre sur cet arbre, mais ils rendent un faux témoignage de l'arbre. Ils vivent de l'arbre, vous le voyez? Ils vivent et se développent grâce à la vie véritable qu'il y a dans cet arbre. Maintenant, voilà Matthieu 24, 24. Ils vivent de la même vie, mais ils n'étaient pas des vrais au commencement. Ils rendent un faux témoignage de cet arbre. C'est un oranger, et pourtant, c'est un arbre porteur d'agrumes. Ils disent, cette église, cette dénomination rend témoignage de Christ. Ils ont un faux baptême, un faux témoignage de la parole. Ils cherchent à dire que la puissance de Dieu, c'était seulement pour les disciples. Jésus lui-même a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à chaque branche qui, chaque arbre qui produira jamais, chaque branche qu'il y aura dans l'arbre. Et voici les signes qui accompagneront les branches véritables. Où? Tant que ce sera un arbre, tant qu'il produira des branches, jusqu'à la fin du monde. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Vous voyez dans quelle heure nous vivons? Vous voyez ce que Jésus a dit? Souvenez-vous, ceci, c'était au temps de la fin. Pas à l'époque de Wesley, pas il y a longtemps. C'est maintenant, au temps de la fin, que ceci devait arriver. Maintenant, observez les Écritures. Que ce soit elles qui rendent témoignage. Jésus a dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez ou vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autrement dit, si jamais cet arbre produit une branche, je suis le cep, l'arbre, vous êtes les sarments. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jean 14, 12. Maintenant, celui qui demeure en moi, celui-là qui était dans ma racine au commencement. Voilà pourquoi Jésus était à la fois la racine et la postérité de David. Il était avant David, en David et après David. À la fois la racine et la postérité de David. L'étoile du matin, la rose de Saron, le lys de la vallée, l'alpha et l'oméga, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. À la fois la racine et la postérité de David.
Elected life, the predestined.
celui qui est la vie élue, la vie prédestinée, qui est en moi, et il est la parole. Depuis le commencement, quand il viendra, il portera mes fruits. Jean 14, 12. Mais les autres vont vivre de la même chose, en prétendant être des chrétiens et des croyants. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous. Bien, et ceci doit se produire et se manifester dans les derniers jours, quand les mystères de Dieu s'accompliraient, comme nous le verrons un peu plus tard. Ces arbres, la vraie vigne et la fausse vigne, vous m'avez entendu prêcher là-dessus depuis des années en arrière. Comment elles ont poussé ensemble? Je les ai montrées dans des individus, et j'ai démontré que depuis Caïn et Abel, les deux vignes qui se sont rencontrées à un autel, tous les deux religieux, tous les deux oints, tous les deux désiraient la vie et adoraient le même Dieu. Et l'un a été rejeté et l'autre accepté. Et si celui qui a été accepté a pu agir différemment de son frère, c'est seulement parce que ça lui avait été révélé. Car la Bible dit « par la foi ». Hébreux chapitre 11. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Jésus a dit que c'était la révélation spirituelle de qui il était. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il a dit, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Quoi? La vraie révélation de la parole. Voilà encore la vraie vigne. Abel, par la foi, vous dites, ce n'était pas une révélation. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation. Et les églises aujourd'hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique d'un système quelconque. Par révélation. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Amen. J'espère que vous voyez ça. Vous voyez où nous vivons? Vous voyez l'heure? Il n'y a pas longtemps, je parlais à un monsieur, un chrétien, un homme cultivé et raffiné. Il a dit, « Monsieur Branham, nous refusons toute révélation. » J'ai dit, « Dans ce cas-là, vous êtes forcé de refuser Jésus-Christ, puisqu'il est la révélation de Dieu. Dieu révélé dans la chair humaine. Si vous ne voyez pas ça, vous êtes perdu. » Jésus a dit, « Si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. » Il est la révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu révélé sous forme humaine. Si vous ne pouvez pas croire ça, vous êtes perdu. Si vous faites de lui une troisième personne, une deuxième personne, ou n'importe quelle autre personne que Dieu, vous êtes perdu. Si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. Une révélation. Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas pu le voir. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés, dans les racines, viendront à moi. Vous voyez? Vous saisissez? Oh, combien nous devrions l'aimer, l'adorer, le louer, de voir le fruit de l'Esprit dans les derniers jours. Et l'arbre épouse, en train de mûrir à l'extrémité du temps. La vraie vigne et la fausse vigne, elles avaient toutes les deux la même onction. L'eau est tombée sur les deux. Ce n'est pas étonnant qu'il nous ait prévenu que ça séduirait même les élus si c'était possible. Remarquez, elles ont la même apparence, elles ont la même onction. Mais remarquez, c'est à leurs fruits. Comment ferez-vous pour savoir? Comment savez-vous que ce n'est pas une orange? Parce qu'elle produit un pamplemousse. Cette tige-là, elle va bien, elle vit dans l'arbre, mais elle produit du pamplemousse. Elle n'est pas comme celle du début. Et si une église dit qu'il croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'il renie sa puissance, renie ses œuvres, renie sa parole, Si, si, l'Église qui croit en Jésus-Christ fera les œuvres de Jésus-Christ. Elle aura la vie de Jésus-Christ. Et si elle n'est pas, la vie aura beau se déverser en elle. Si elle n'est pas prédestinée à partir des racines, elle portera du pamplemousse à tous les coups, ou quelque chose d'autre. Mais s'il s'agit de la vie prédestinée dans les racines, elle produira Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si c'est la parole qui monte à travers la racine, et il est la racine, le commencement du temps. Remarquez, mais c'est à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. C'est à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas des raisins sur des chardons, même si le chardon peut être en plein dans la vigne. Ça, c'est possible, mais c'est aux fruits qu'on saura. Le fruit, c'est quoi? La parole, le fruit pour la saison. Voilà ce que c'est, leur enseignement. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison, l'heure qu'il est. Une doctrine dénominationnelle, la doctrine de l'homme, mais ou bien la parole de Dieu pour la saison. Maintenant, le temps passe tellement vite qu'on pourrait rester là-dessus un bon bout de temps. Mais je suis sûr que vous, ici présents, et je suis sûr que vous, un peu partout dans le pays, vous pouvez voir ce que j'essaye de vous dire, parce qu'on ne peut plus s'attarder trop longtemps là-dessus. Mais que vous puissiez voir que l'onction vient sur les injustes, les faux enseignants. Elle leur fait faire exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Mais ils vont le faire quand même. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Comment chardon peut-il être autre chose qu'un chardon? Peu importe la quantité de bonne pluie dont on l'asperge, il sera forcément un chardon. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il serait tellement proche que ça séduirait même les élus qui sont dans les racines, si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Le blé ne peut rien faire d'autre que de produire du blé. C'est tout ce qu'il peut produire. Remarquez, souvenez-vous, Dieu n'est pas l'auteur des organisations. C'est le diable qui est l'auteur des organisations. Je l'ai prouvé à fond et maintes fois par la parole. On n'aura pas besoin d'entrer là-dedans ce matin. Nous savons que jamais Dieu n'a rassemblé les gens dans des organisations comme ça. Jamais il n'a formé d'organisation. C'est des centaines d'années après la mort du dernier disciple que la première organisation a été instituée. Cela a toujours été un échec. Les preuves sont là. Sinon, pourquoi ne sommes-nous pas tous unis dans l'amour aujourd'hui? Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques et tous les autres. Pourquoi est-ce que les œuvres de Dieu ne nous accompagnent pas? Alors, avec toutes les églises ralliées à la même chose, la parole. Ce sont ces choses-là qui provoquent des divisions entre les hommes, les frères. Nous sommes plus loin de Dieu que nous ne l'avons jamais été. Les églises, je veux dire. Maintenant, il nous est dit que toutes les choses anciennes sont arrivées pour servir d'exemple, pour nous instruire, nous convaincre, nous corriger. C'est-à-dire que toutes les choses anciennes de l'Ancien Testament sont arrivées comme préfiguration pour qu'on voit ce qui arriverait dans le Nouveau Testament, à notre époque à nous. C'est comme si vous n'aviez jamais vu votre main, que vous leviez les yeux et que vous voyiez une ombre sur le mur, comme celle que ma main ferait à cause de la lumière. Si l'ombre, là, est la sainte doigt dans le négatif, et que vous approchez votre main, qui est le positif, du négatif, il faut que ça donne sainte doigt. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était une ombre, un type des choses nouvelles, ou des choses qui devaient venir. Ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est une ombre, un type des choses qui sont à venir. Faisons un retour en arrière pour voir si c'est déjà arrivé dans un autre âge. Vous voulez bien? Alors nous saurons, en le prouvant à fond par la parole, non pas par l'idée d'un homme, une théorie quelconque. Peu m'importe qui il est, que ce soit n'importe quel autre homme, moi ou n'importe qui d'autre, s'il ne parle pas selon la loi et les prophètes, il n'y a pas de lumière en lui. Voyez, c'est ce que la Bible dit, que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Peu importe de qui il s'agit. Donc, faisons un retour en arrière pour voir si c'est déjà arrivé pour nous servir d'exemple. Nous pourrions retourner prendre le livre de l'Exode. Et là, parler d'un personnage appelé Moïse, qui était un prophète oint, envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu pour sa génération, comme il y a toujours une continuité dans la parole de Dieu. Il a dit qu'il ne ferait rien sans l'avoir d'abord révélé à ses prophètes. Ensuite, il le ferait, voyez. Or, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas être Dieu et mentir. Non, monsieur, il doit demeurer vrai. Il n'y a aucun mensonge en lui. Il est, et il ne peut pas la changer. S'il le fait, alors il n'est pas Dieu. Il a fait une erreur. Il doit forcément être infini. Et l'infini, ça ne connaît pas l'erreur, voyez. Alors si jamais Dieu dit quelque chose, c'est vrai pour l'éternité, voyez. Et il l'a promis. Alors, regardez bien, la Bible ne s'écarte pas de sa continuité, nulle part. Bon, Dieu avait promis à Abraham que sa postérité serait étrangère dans un pays étranger pendant 400 ans, et qu'ensuite, il les ferait sortir par le bras puissant de sa force, qu'il ferait ses prodiges et ses miracles au milieu du peuple avec lequel ils habitaient. Le temps de la promesse approchait. Les gens l'avaient oublié. Ils avaient des pharisiens, des sadducéens, et ainsi de suite, des dénominations. Mais tout d'un coup, Dieu est arrivé, retiré et à l'écart, en dehors, loin de tout cela. Dieu n'a jamais, à aucune époque et à aucun moment, appelé un prophète qui était dans une dénomination. Non, monsieur, il serait tellement tordu qu'il ne le pourrait pas. Il préférerait rester dans cette dénomination. Moïse, un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, il poursuivait son chemin pour emmener Israël dans le pays promis. Il obéissait strictement au commandement de Dieu quand il a rencontré un autre prophète. Un autre oint qui avait une véritable onction du même Saint-Esprit qui était sur Moïse. C'est vrai, il était prophète. Le Saint-Esprit était sur cet homme-là. Il s'appelait Balaam. Nous le connaissons tous. Eh bien, les choses même, exactement, les choses que cet homme a dites sont encore en train de se produire. Et c'était il y a environ 2800 ans. Tu es comme un buffle, ô Israël. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Ta vigueur et ta puissance, quelles sont juste tes tentes, ô Jacob. Vous voyez, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était venu là avec dans son cœur l'intention de maudire le peuple. Oh, vous, faux enseignants, qui avez écouté ces bandes toutes ces années et qui avez vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau et vous savez que c'est la vérité. Mais à cause des différences de vos dénominations, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Malheur à vous! Votre heure est proche. Balaam, loin du même esprit qui était sur Moïse. Quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. La Bible dit ici, dans 2 Pierre, que c'était l'enseignement de Balaam, qu'Israël avait accepté, que Dieu n'a jamais pardonné. Un péché impardonnable. Pas un seul d'entre eux n'a été sauvé, bien qu'ils aient reçu les bénédictions de Dieu, et qu'ils aient vu la main de Dieu agir par ce prophète puissant, et qu'ils aient vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Et en effet, un autre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire. Et s'est opposé à Moïse, et il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan, Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à aller dans le sens de son organisation, c'est-à-dire, nous sommes tous pareils. Que nous soyons méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou quoi encore, nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur. Consacrez la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ce jour-ci. Et vous n'êtes pas l'un d'eux. Je sais que c'est assez percutant, mais c'est la vérité quand même. Consacrez pour un service en ces derniers jours. sortez du milieu d'elle. Donc, l'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam, ça c'était très bien, ça c'était Dieu. Combien le croient? La prophétie de Balaam était tout à fait exacte, parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre. Et Dieu l'a confirmé en prouvant que c'était la vérité. Mais c'était l'enseignement de Balaam. Maintenant, comparez ça à Matthieu 24, 24. Des oints, mais leur enseignement est faux. Les trinités et toutes les choses du genre. Faux, antichrist. J'espère que ça ne vous blesse pas. Et ne coupez pas, ne raccrochez pas les téléphones. Et ne vous levez pas pour sortir, mais restez bien tranquille. Et on va voir si le Saint-Esprit ne va pas nous le révéler et nous le prouver. Vous dites, mais ça, quoi que vous croyez, restez bien tranquille là et écoutez. Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur. Alors vous verrez si vous êtes une ronce ou un chardon ou quelle est votre position. Voyez? Maintenant, même Judas, prédestiné à la condamnation, il l'était. Il était là devant Jésus. Et Jésus lui a dit, « Tu es celui-là. Ce que tu vas faire et ce que tu dois faire, fais-le vite. » Il savait ce qu'il faisait, mais malgré tout, pour ses 30 pièces d'argent et pour la popularité, il a vendu le Seigneur Jésus-Christ. C'était l'un de ses disciples, le trésorier de l'Église. Jésus l'a appelé son ami. Voyez ? La Bible dit qu'il est né le fils de la perdition, exactement comme Jésus est né le fils de Dieu. Séduire même les élus s'il était possible. Soyez très attentifs alors que nous continuons notre étude. Nous allons prendre un autre exemple dans le livre des rois. Il y avait un prophète et son nom était Michée. C'était le fils de Jimla. Il était prophète. Il l'était. Et il y avait un autre prophète, le chef de l'organisation des prophètes, des oints. La Bible a dit que c'était des prophètes, au même titre qu'elle a dit que Balaam était prophète, des oints. Et l'un d'eux, du nom de Michée, était oint de Dieu et envoyé de Dieu avec la parole de Dieu. Il y en avait un, Sédécias, qui se pensait envoyé de Dieu. Il était oint de Dieu, mais son enseignement était contraire à la parole de Dieu. S'élèvera de faux Christ, ils feront de grands prodiges pour séduire les élus s'il était possible. Remarquez, tous les deux étaient oints. Maintenant, comment pouvait-on savoir lequel avait raison et lequel avait tort? Regardez ce que la parole avait promis à Achab. Le prophète qui avait été avant lui, c'est-à-dire Élie, l'un des plus grands prophètes de l'âge, il était un prophète confirmé. Ce prophète confirmé avait dit que, parce que Achab avait fait ce qui est mal, les chiens lécheraient son sang pour avoir pris la vie de Naboth. Et les chiens mangeraient Jézabel, et son corps serait comme du fumier sur les champs. Maintenant, comment pouvez-vous bénir ce que Dieu a maudit? Ou comment pouvez-vous maudire, comme Balaam l'a dit, ce que Dieu a béni? Voyez? Mais ces prophètes étaient sincères. Ils étaient sans aucun doute des hommes bons, des hommes honorables. Car il fallait qu'on soit honorable pour être prophète en Israël, ou même pour être un simple Israélite. On vous lapidait, sinon. C'était des hommes honorables. C'était des hommes intelligents. C'était des hommes instruits. C'était l'élite d'Akab, de la nation. Vous voyez ça, Sir Wright? L'élite de la nation. Il convenait très bien au... Et alors, quand Michée a eu sa vision, au fond de son cœur, il savait ce que la parole avait dit, mais il voulait voir ce que l'esprit qui était en lui dirait. Donc, ils ont dit, dis la même chose que ce que les autres prophètes disent. Et à ce moment-là, eh bien, tu seras, nous te reprendrons dans notre association, c'est sûr. Tu vois, nous ferons de toi l'un des nôtres. Nous te reprendrons avec nous dans notre dénomination. Nous savons que tu es prophète, mais tu es toujours en train d'annoncer des malédictions. Tu es toujours en train de maudire Akab. Or, Sédésias, le chef, le pape, ou ce qu'il était là, or lui, il a béni Akab, et il a dit, « Vas-y, allons, toi, dis la même chose, Jimla. Voyons, tu n'es qu'un pauvre type, tu n'as pour ainsi dire pas d'assemblée du tout, et ces gars-là, ils en ont des millions. La nation tout entière est pour eux. Alors, en disant la même chose qu'eux, tu vois ce que tu feras? Tu mangeras des richesses du pays. » Il était en train de parler au mauvais gars, là. Et si on lui avait dit, « Peux-tu trouver quelque chose à reprocher à Sédésias, Miché ?» Non. L'as-tu déjà surpris en train de pécher ? Non. L'as-tu déjà entendu disputer quelqu'un ? Non. L'as-tu déjà surpris en état d'ivresse ? Non. Contesterais-tu son instruction ? Non. Est-ce que tu crois que son doctorat est faux ? Non. Tu crois que son doctorat en philosophie est valide ? Bien sûr. D'après le conseil du Sanhédrin, je pense qu'il est bien valide. Mais alors, pourquoi est-ce que tu ne te joins pas à lui ? Parce qu'il ne se tient pas sur la parole. Eh bien, ils vont avoir une épreuve de force dans ce cas-là. Comme le prophète Élie en avait eu une avant. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous resterez avec le prophète de cette Bible. C'est la parole. Remarquez l'heure, la saison. Eh bien, disons, si Sédésias avait dit, « Oh, je sais bien que le prophète a dit ça, mais c'est pour une génération future. C'est pour dans très longtemps. » Il a dit, « Attends que j'ai une vision de Dieu, et là, je te le dirai. » Il a dit, « Alors, tu vas dire la même chose ?» Il a dit, « Je dirai seulement ce que Dieu dit, rien d'autre, rien de plus. Je ne peux pas y ajouter un mot, ni en retrancher un mot. » Alors, cette nuit-là, il priait, et le Seigneur est venu à lui dans une vision. Il est parti le lendemain matin. Il a dit, « Voilà deux prophètes, l'homme le plus important de la nation, au point de vue militaire et national, c'était Sédésias. Il était le prophète en chef du roi. Il était le chef de tous les autres prophètes de l'organisation. Il avait été nommé par son organisation à la tête de tous. C'était probablement le plus cultivé, le plus instruit, le plus apte pour le poste. » Et il était oint du Saint-Esprit, car il était appelé un prophète, certainement, et pas juste un prophète ordinaire. C'était un prophète hébreu. Maintenant, regardez-le bien. Sédésias a dit, « Le Seigneur m'a parlé. Fais-moi deux cornes de fer, un symbole. » Un prophète donne habituellement des symboles. Il a dit, « Fais ces cornes de fer. » Le Saint-Esprit m'a dit, « Prends-les. L'onction qui m'a béni. » Ne pensez pas que c'est sacrificiel, mais c'est pour faire ressortir quelque chose. Le Saint-Esprit qui parle en langue à travers moi, celui qui m'a confirmé, il a dit, prends ses cornes, et c'est avec ça, tu le diras au roi, qu'il fera complètement sortir la Syrie du pays. Et je vais lui redonner le pays qui appartient de droit à Israël, l'Église. Frère, c'est assez fondamental, ça. C'est à peu près comme Balaam, là. Balaam était tout aussi fondamental dans son discours que Moïse. Moïse, le nombre exact de Dieu est 7. Et Balaam a dit, « Bâtis-moi 7 autels, 7 sacrifices purs, des taureaux et 7 béliers. » Cela témoigne de la venue du Fils de Dieu. Fondamentalement, il avait raison, tout autant que les autres. Et voici Sédésias, il avait fondamentalement raison, tout autant, car ce pays nous appartient. Voyons, les Syriens et les Philistins sont là à se remplir le ventre. Celui de leurs enfants est tout, nos ennemis, de la nourriture dont nos enfants sont privés, alors que Dieu nous a donné ce pays. Frère, voilà un bon argument. J'imagine qu'ils pouvaient proclamer ça à grands cris devant Israël, et qu'ils pouvaient crier de toutes leurs forces. Maintenant, je parle d'aujourd'hui, là. J'espère que vous me suivez. Tout s'écrit, tout se tapage. Vous vous souvenez de David, dimanche dernier? Voyez? Vous, là-bas, au pays de la radio, ou au pays de cette liaison téléphonique, si vous n'avez pas eu le message de dimanche dernier, procurez-vous-le, sans faute. Essayez de rendre un service à Dieu sans avoir été établi pour le faire. Peu importe combien on peut être sincère et bon, ce n'est absolument pas accepté par Dieu. Voyez? Donc, ici, il y avait Sédésias. qui pense avoir raison. Michée a dit, « Je vais demander à Dieu. » Alors, il est revenu le lendemain matin avec « Ainsi dit le Seigneur ». Il a comparé sa vision à la parole. Bon, s'il avait dit à Sédécias, « Sais-tu ce que le prophète de la Bible, là, a dit qu'il arriverait à ce gars-là ? » Mais ça, ce n'est pas pour cette époque-ci, parce que cet homme-là est un homme honorable. Il essaye, ne manquez pas ça, il essaye de redonner à l'Église les choses qui appartiennent à l'Église. Il essaye de lui redonner ses biens, pas les choses spirituelles. Si ça avait été le cas, il aurait ébranlé la nation tout entière, comme Élie l'avait fait. Mais il essayait de leur donner les choses matérielles. Nous possédons des biens, nous sommes une grande organisation, nous en sommes membres. Tous, nous, vous tous, les protestants, vous devriez vous joindre à nous. Ah oui, nous allons y venir tout à l'heure. Ce sont tous des frères et sœurs, de toute façon. Pas du tout. Ça n'en a jamais été et ce n'en sera jamais. Pour la véritable Église de Dieu, la vraie, impossible. Remarquez, il a eu la vision. Alors il a dit, « Dieu m'a parlé ». Maintenant regardez, cet homme était sincère. Il a dit, « Fais ses cornes et va là-bas devant le roi et ouvrez-vous un chemin en direction de l'ouest ou dans la direction des terres à partir d'où ils étaient. » Ouvrez-vous un chemin et c'est ainsi dit le Seigneur. Il va remporter la victoire et revenir avec une victoire pour l'Église. Nous allons les chasser. C'est assez proche, hein? Qu'est-ce qu'il y avait? Voilà Michée qui arrive. Ils ont dit, maintenant, donne ta prophétie. Il a dit, montez! Mais j'ai vu tout Israël dispersé, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Exactement l'inverse. Maintenant, c'est vous l'assemblée. Maintenant, lequel a raison? Tous les deux sont prophètes. La seule manière pour vous de les distinguer, c'est de vérifier ça par la parole. Où es-tu allé chercher ça? Il a dit, j'ai vu Dieu assis sur un trône. Il a dit, j'ai vu tout son conseil autour de lui. Maintenant, souvenez-vous, Sédécias venait de dire qu'il avait vu Dieu, lui aussi, et le même esprit. J'ai vu Dieu, il m'a dit de faire ses cornes de fer, d'aller là-bas et de repousser les nations d'ici, car ceci nous appartient. Les autres n'ont aucun droit là-dessus. Ils l'auraient eu, s'ils étaient restés fidèles à Dieu. Ils auraient eu ça, mais ils s'étaient éloignés de Dieu. C'est pareil pour l'organisation, l'Église. Elle a droit à ces choses, mais on vous les a escroquées parce que vous êtes éloignés de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, l'onction qui confirme la parole de la saison. Surtout, ne manquez pas de recevoir ce message. Remarquez bien ce qui s'est passé. Il a dit, « J'ai vu Dieu. » Michée l'a vu, assis sur le trône dans le ciel. Son conseil était réuni autour de lui. Il a dit, « Qui pourrait descendre tromper Akab pour faire que les paroles d'Élie s'accomplissent ?» Mon prophète qui était confirmé. J'avais annoncé sa venue et Élie avait ma parole. Aussi, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira pas. Peu m'importe combien ils seront modernes, combien ils seront bons, combien ils seront instruits ou combien ils peuvent être importants, mes paroles ne failliront jamais. Et un esprit de mensonge est monté de l'enfer. Il est tombé à genoux et il a dit, « Si tu veux me le permettre, je pourrais leur donner mon onction, leur faire faire toutes sortes de prodiges et de miracles, pour autant que je les éloigne de la parole. Il ne saura même pas que c'est ta parole. Il n'en tiendra aucun compte à cause de la popularité. Frères, les temps n'ont pas changé. Traîneville, c'est vrai. Souvenez-vous-en, c'est vrai. Je vais venir sur lui faire faire les mêmes choses que les autres. Je vais le faire prophétiser et il dira un mensonge. En quoi est-ce que c'était un mensonge? Parce que c'était contraire à la parole. Prenez n'importe quoi, ces faux baptêmes, telle et telle chose qui sont fausses. Peu m'importe combien ça peut avoir l'air vrai, combien ils essayent d'imiter, si c'est contraire à la parole de Dieu de cette heure, c'est un mensonge. C'est exactement ça. Vous dites, eh bien, chez nous, eh bien, nous avons fait ceci, et nous faisons ceci, et notre église est comme ceci, et comme cela. Peu m'importe de quoi il s'agit, si c'est contraire à la parole écrite pour cette heure, c'est un mensonge. Dieu n'aura rien à voir avec ça. Peu importe leur sincérité, leur instruction, leur intelligence, combien ça semble être vrai, combien ça semble raisonnable, si c'est contraire à la parole de cette heure. Nous allons approfondir ça encore un peu dans quelques minutes, si le temps nous le permet. Sinon, nous y reviendrons ce soir. Remarquez, il était sincère. C'était un homme bon, sans doute. Et il a dit, là, autrement dit, Michel lui a dit, il ne lui a pas dit tout cru, mais en d'autres termes, tu es loin d'un esprit de mensonge. Ce serait quelque chose de dire ça à un évêque, n'est-ce pas? Mais il l'a fait. Alors cet évêque s'est avancé et il a dit, tu n'auras plus jamais de communion fraternelle. Et il l'a giflé. Il a dit, tu sais que je suis un homme confirmé. Mon église m'a placé à la tête de ceci, de cette chose. Le vote populaire du peuple de Dieu m'a placé là. Mon organisation m'a placé là. Et Dieu nous a donné ce pays. Et son intention, c'est qu'il nous appartienne. Et j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Il l'a giflé et il a dit, de quel côté l'Esprit de Dieu est-il allé quand il est sorti de moi? Michée a dit, tu le sauras un de ces jours, quand la Californie sera au fond de la mer là-bas, et toutes ces choses, voyez? Tu verras de quel côté il est allé, quand tu seras assis au fond d'un cachot. Maintenant, Acab, qu'est-ce que tu vas dire? Il a dit, je crois mon prophète. Et si seulement il avait sondé la parole, vous voyez, il ne voulait pas se voir maudit. Écoutez-moi, il ne voulait pas se voir maudit. Aucun homme ne veut cela. Et toi, mon frère, qui es dans les organisations, voilà ce qui t'arrive. Tu veux croire que tu as raison, alors que tu sais, au fond de ton cœur, que quand tu baptises au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, tu mens. Tu sais que quand tu pries, tu dis ces choses comme tu fais, et que tu acceptes des signes initiaux et toutes ces choses-là, tu as tort. Comment le signe initial peut-il être le parler en langue pour parler ensuite de manière contraire à une promesse de Dieu pour cette heure-ci? Comment est-ce possible? Tu ne veux pas de la malédiction, hein? Mais c'est écrit ici, alors il en sera ainsi. C'est la marque de la bête, tellement proche que ça séduirait les élus si c'était possible. Avec tous les prodiges, tous les miracles, tous les hommes moins, les prophéties, toutes sortes de choses qui se passent, toutes sortes de prodiges, toutes sortes de miracles. Comment allez-vous pouvoir distinguer? Gardez l'œil sur la parole pour cette heure-ci. C'est comme ça que vous, regardez Moïse, comment il a pu le dire à Balaam. Regardez Michée, là, comment avons-nous su qu'il avait raison? La parole, avant lui, avait prophétisé cela pour Acab. Et la parole, avons-nous, a prophétisé au sujet des organisations de ce jour-ci et de cette malédiction qui reposerait sur elle et les choses qui se produiraient par l'entremise de son Église véritablement ointe, qui aura la parole, une épouse parole. Nous y voilà. C'est ici, aujourd'hui, exactement comme à cette époque-là. La Bible dit, par la bouche de deux ou trois témoins, que toute parole soit établie. J'ai parlé de Balaam, j'ai parlé de Balaam et de Moïse, et je viens de parler de Michée et Sédécias. Maintenant, je vais en donner un de plus. D'ailleurs, il y en a des centaines, mais un de plus pour avoir trois témoins. Je n'ai toute une série en notes ici, mais pour gagner du temps. Jérémie, qui était confirmé, il était rejeté, mais c'était un prophète de Dieu confirmé. Il haïssait cet homme. Il lui lançait des fruits pas mûrs, trop mûrs, et tout le reste. Et il a prononcé la malédiction sur eux. Et les choses qu'il a faites, quand il s'est couché sur un côté et sur l'autre, et tout, qu'il a donné à Israël des signes qu'ils avaient tort. Chaque prophète, chaque vrai prophète qui a été suscité dans le monde a toujours maudit ces organisations dénominationnelles de l'Église. Comment est-ce que ça pourrait changer avec le Dieu qui ne change pas? Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole. Il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit, qui a écrit la parole, vient confirmer la parole. Or, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Michée? Acab a été tué et les chiens ont léché son sang, conformément à la parole de Dieu. Vous tous, faux enseignants, ainsi dit Dieu, un jour vous récolterez ce que vous semez. Vous, aveugles qui conduisez des aveugles. Je ne suis pas en colère. Je vous dis une vérité, c'est tout. Et je ne l'aurais pas dit si là, dans la pièce, le Saint-Esprit n'avait pas dit, dis-le de cette manière-là, Vous ai-je déjà dit quelque chose de faux, dont Dieu n'aurait pas prouvé que c'était vrai? Réveillez-vous, mes frères, avant qu'il ne soit trop tard. Mais je vais vous dire ceci, comment une épine peut-elle se réveiller et être un chardon, alors qu'elle a été prédestinée à cela? Comment les élus peuvent-ils s'empêcher de le voir? En effet, ils sont élus à le voir. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront, a dit Jésus. Mais aucun d'entre eux ne peut venir sans qu'il me l'ait donné avant la fondation du monde, quand leurs noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau. Pas dans un registre d'église, mais dans le livre de vie de l'agneau. Remarquez, Jérémie s'est levé, confirmé devant le peuple, et pourtant, il le haïssait. Donc, ils sont allés faire un joug, il y est allé, et il l'a mis sur son cou, et il est allé devant le peuple. Il disait, « Oh, nous sommes le grand peuple de Dieu. Voyons, nous sommes Israël. Nous sommes vraiment sincères dans notre synagogue. Nous allons à l'office tous les dimanches. Nous offrons des sacrifices et nous donnons notre argent. Comment donc, Nebuchadnezzar, pourrait-il retenir en sa possession les choses saintes de Dieu? C'est à cause de vos péchés. Dieu a dit, « Si vous observez mes commandements, je ne le ferai pas. Mais sinon, voilà ce qui vous attend. » C'est tout à fait vrai. C'est encore pareil. Observez ses commandements, sa parole de l'heure, ce qu'il a promis. Maintenant, remarquez. Donc, Jérémie, par la volonté de Dieu, un prophète confirmé, bien que haï. Ils ont tous été haïs à leur époque. Ils faisaient des choses tellement bizarres, contraires à la dénomination de l'époque. Tout le monde le haïssait, jusqu'au roi et tout le reste. Il a donc mis un joug sur son cou et il a dit, « Ainsi dit le Seigneur, vous serez là-bas pendant 70 ans. » Parce qu'il en avait reçu la compréhension par la parole de Dieu. 70 ans. Ensuite, Anania. Anania, je pense que ça doit se prononcer comme ça. H-A-N-A-N-I-A. Anania. Un prophète parmi le peuple s'est présenté là. Il a ôté le joug du cou de Jérémie et il l'a brisé. Et il a dit, pour faire l'important devant le peuple, vous voyez, alors que ce qui était dit, c'était contraire à la parole de Dieu. Et il a dit, dans 2 ans, ils reviendront, ainsi dit le Seigneur. 2 prophètes oints. Quelle était la différence entre eux? L'un avait la parole qu'il prononçait et pas l'autre. Jérémie a dit, Amen. Devant tous les anciens et l'assemblée, tout Israël, vous voyez, il voulait montrer qu'il pouvait être aussi important que Jérémie. Tu sais, il ne t'aime pas de toute façon. Alors, moi aussi, je suis prophète. Je suis plus prophète que toi. Parce que toi, tu prophétises un mensonge. Tu me racontes que le peuple de Dieu va subir telle et telle chose. Voilà ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais vous y serez quand même, en tant qu'église. Vous êtes maudits d'une malédiction. Vous toutes, les églises, les dénominations, qui vous attachez aux traditions de l'homme plutôt qu'à la parole de Dieu, vous êtes maudites par Dieu. Bon, remarquez, le voilà qui arrive. Anania arrache ce joug de son cou, un symbole de Dieu. Il l'a brisé. Il a dit, « Ainsi dit le Seigneur, dans 2 ans, ils reviendront. » Rien que pour se montrer. Moi, je suis un tel. En effet, il a pris cette place, lui qui était un prophète dans une organisation. Jérémie était un homme des lieux sauvages. Il vivait seul. S'il prophétisait tout le temps des choses mauvaises contre eux, c'est parce qu'ils étaient mauvais. Et cet homme-là, il leur disait, « Oh, tout va bien pour vous, tant que vous êtes membre, tant que vous êtes Israël, c'est tout ce qui est nécessaire. Vous voyez, vous, nous, Dieu ne va pas faire ça. Je sais qu'il s'est passé un petit quelque chose là, mais ne vous alarmez pas, n'ayez pas peur. » Oh, frère, ils sont encore en vie aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous avons tout ça bien en main. Nous sommes l'Église. N'allez pas penser ça. Ah oui. Donc, il a dit, tout va bien. Ils reviendront dans 2 ans. Ça, c'est une petite chose qui est arrivée. Ce n'est rien d'exceptionnel. Ça arrive. C'est juste Nebuchadnezzar qui est venu ici. Mais notre Dieu va s'occuper de tout ça. Seulement, la parole disait qu'ils y seraient 70 ans. Jusqu'à ce que cette génération-là se soit éteinte, et une autre génération. Une génération, c'est 40 ans. C'est pendant presque 2 générations que vous serez là-bas. Et Jérémie l'a dit, conformément à la parole de Dieu. Anania a brisé ça. Jérémie a dit, très bien, amen. Seulement, Anania, souvenons-nous-en, Nous sommes tous les deux prophètes. Nous sommes prédicateurs. Et je te dis ceci, mon frère. Souvenons-nous qu'il y a eu des prophètes avant nous. Ils ont prophétisé contre des royaumes. Ils ont prophétisé contre certaines choses. Mais souviens-toi, quand le prophète disait quelque chose, il devait prophétiser conformément à la parole. Comme Michée et Moïse et tous les autres, ça doit être selon la parole. Sinon, alors, souviens-toi de ce qui arrive. À ce moment-là, Anania, sa juste indignation était soulevée. Je suis Anania, le prophète du Seigneur, et moi je dis 2 ans. En d'autres termes, ce que la parole dit, ça m'est égal. Son onction, je dis, dans 2 ans, ils reviendront. Jérémie l'a laissé là, il est parti et il a dit, « Seigneur, peu m'importe ce que lui a dit, je crois quand même, et je le sais, que c'est ce que la parole dit. Je te resterai fidèle, je ne me laisserai pas tromper par lui. » Dieu a dit, « Va dire à Anania que le prochain jour, je le ferai de fer. » Et pour avoir fait ça, il a été ôté de la surface de la terre. Anania l'a été, dans la même année. Voilà nos exemples, tous les deux prophètes. Il y en a encore bien plus qu'on pourrait citer et dont on pourrait parler en ce moment. Mais regardez bien, Jésus a dit qu'en ce temps de la fin, de nouveau, les deux esprits seraient encore très proches l'un de l'autre. Pas vrai? Maintenant, remarquez, ce sera plus proche encore qu'à cette époque-là. C'est maintenant le temps de la fin. Oh, mes enfants, que Dieu ait pitié de nous! Si bien que ce serait tellement réel, au point de séduire même les élus, si possible. Maintenant, comment allez-vous? Comment a-t-on fait pour savoir à ces époques-là? Comment allez-vous faire pour savoir aujourd'hui? Par le même moyen, en vous en tenant à la parole. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, prêtez attention à tout ce message. Et quand vous écouterez la bande, peut-être même que je serai parti, un jour, quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi, ici sur terre. Vous vous référerez à cela. Écoutez ma voix, ce que je suis en train de vous dire. S'il me prend avant sa venue, souvenez-vous bien, je vous ai parlé au nom du Seigneur, par la parole du Seigneur. Oui. Remarquez, ils seraient tellement proches l'un de l'autre que ça séduirait les élus si c'était possible. Il ferait les mêmes prodiges, les mêmes miracles, par le même esprit. Pas vrai? Exactement comme pour les prophètes, là, dont on vient de parler, des prophètes. Or, il est aussi écrit, on va le prendre, celui-là, si vous voulez, 2 Timothée 3. On ne va pas le laisser de côté, celui-là. Et je ne veux pas, je regarde l'horloge, là, et j'ai envie d'en passer beaucoup. Mais je ne pense pas qu'on devrait le faire en ce moment. Voyez, remarquez, simplement, si je suis ici, à transpirer comme ça, vous voyez, mais je suis heureux. Et je sais que ceci est vrai. 2 Timothée 3, 8. Paul, l'homme qui a dit, si un ange descendait du ciel pour vous annoncer une autre parole que ce que j'ai dit, qu'il soit maudit. Un ange, là, qui descendrait. Ça, c'est 2 Thessaloniciens. Oh, excusez-moi. Remarquez, dans 2 Timothée 3, 8, observez, c'est Paul qui parle, ici. Commençons au premier verset. Et écoutez très attentivement, là. Vous qui avez votre Bible, lisez avec moi. Vous qui n'avez pas votre Bible, écoutez attentivement. Ça, sache que dans les derniers jours, soulignez ça, derniers jours, c'est là que cela va arriver. Il y aura des temps difficiles. Nous sommes dedans. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Regardez-moi la bande qu'on a aujourd'hui, pourrie, jusqu'aux hommes, là, dans la rue, des jeunes hommes qui se ramènent les cheveux sur le front, avec des franges comme les femmes, de la perversion, des sodomites. Avez-vous lu, dans le Reader's Digest de cette année, de ce mois-ci, ça dit que les Américains, à l'âge de, je pense que c'était entre 20 et 25 ans, ils ont déjà atteint l'état d'âge mûr. Ils sont finis. Ils sont pourris. La science le dit, que l'homme atteint l'âge mûr, la femme aussi, quand ils sont encore au début de la vingtaine, tellement leur corps est pourri et abandonné à la souillure. Oh, Amérique, combien de fois Dieu aurait voulu te prendre sous ses ailes. Mais maintenant, ton heure est venue. Tu entraînes le monde dans la souillure. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle. Pas d'amour véritable, même l'un envers l'autre. L'homme pour la femme pour l'homme. Pas même d'affection naturelle. De la souillure, sexuellement. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, et ennemis des gens de bien. En d'autres termes, ils disent, « Vous autres, bande d'exaltés, quelqu'un s'informait l'autre jour pour venir à l'église ici. » On lui a dit, « Ne va pas là-bas. Tout ce qu'il y a là, c'est beaucoup de tapage et d'excitation. Rien d'autre. » Vous voyez, ennemis de ces gens-là. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous dites, « Frère Branham, ça c'est les communistes. » Le verset d'après, qu'est-ce qu'il dit, ayant l'apparence de la piété? Mais quoi? Reniant ceux qui ont fait la force. La parole, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, manifesté la promesse du jour, exactement comme Anania, exactement comme Sédécias, exactement comme Balaam, et ainsi de suite, d'autres faux prophètes, ayant l'apparence de la piété, loin, voyez, ayant l'apparence, loin, des prédicateurs qui ont été ordonnés, ayant l'apparence de la piété, mais reniant qu'il est le même hier, aujourd'hui, reniant sa parole. Comment ont-ils renié Jésus en ce jour-là? Qui ont-ils renié quand ils ont renié Jésus? La parole. Ils étaient religieux. Ils prenaient leur Bible pour enseigner, mais ils reniaient la parole du jour. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? La même chose. Ils sont loin. Ils prêchent l'évangile de la Pentecôte. Mais il renie la promesse d'aujourd'hui, la parole confirmée, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que vous le voyez? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Nos réunions de couture et nos ceci et cela, quelqu'un se présente en cherchant à donner une mauvaise interprétation de la parole, en disant que « C'est très bien, sœur, si vous avez les cheveux courts, ne faites pas attention à cet imbécile-là, voyez. » Ou « Si vous portez ça, ce n'est pas ça, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille, voyez. Et vous rendez-vous compte que vous êtes ointe d'un mauvais esprit, sale, souillé? Peu m'importe, vous aurez beau chanter dans la chorale, avec vos cheveux courts, n'empêche que vous avez un mauvais esprit. C'est contraire à la parole, ça. C'est vrai, c'est ce que dit la Bible. Et vous dites, « Eh bien, moi, je porte des shorts, ça ne me condamne pas. Quiconque, si une femme met un vêtement d'homme, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Le Dieu qui ne change pas l'a dit. Oh, il y en a tellement. » On pourrait passer toutes ces choses en revue, mais cela prendrait tout notre temps. Seulement, vous en savez assez pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et comment est-ce que je peux les forcer à le faire? Comment est-ce que je peux, moi? Vous dites, mais alors, pourquoi est-ce que vous criez comme ça? Je suis un témoin contre vous. Un jour, au jour du jugement, vous n'aurez pas un seul recoin où vous retirer. Michée, comment pouvait-il arrêter ça? Moïse, comment? Il criait, il essayait d'arrêter ça. Et Josué et les autres qui couraient au milieu du peuple. Et Lévi qui a sorti son épée et qui est même allé jusqu'à les tuer. Ils ont continué quand même. Il a été prédit qu'ils le feront. Et ils vont le faire. Car c'est ainsi dit le Seigneur qu'ils vont le faire. Pensez-vous que ces nominations vont rompre leur dénomination, revenir à la parole? C'est ainsi dit le Seigneur. Ils ne le feront pas. Vont-ils aller du côté de l'Antichrist? Tout à fait. C'est ainsi dit le Seigneur. Ils le feront. Dans ce cas-là, pourquoi en parlez-vous? Je dois être un témoin. Et vous aussi, tous les croyants. Regardez bien. Des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce. Mais toutes les autres femmes le font. Des faux prophètes. Maintenant écoutez, c'est des faux prophètes que je parle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire au dernier jour? Captives des femmes d'un esprit faible et borné, agitées de passions de toute espèce. Mais je sais toutes les autres femmes. Bon, eh bien, allez-y. Qu'est-ce que j'avais dit? juste avant ce grand événement qui s'est produit ici en Californie. Vous, les gens de Los Angeles, ici, chaque année, quand je reviens, il y a plus de femmes aux cheveux coupés et d'hommes efféminés qu'il y en avait au départ. Plus de prédicateurs qui se joignent aux organisations. Vous êtes sans aucune excuse. Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Sodome et dans Gomorre, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ô Capernaum, toi qui te nommes du nom des anges, Los Angeles, vous voyez ce qui se passe? Elle s'en va directement au fond de la mer. Quand? Je ne sais pas quand elle va y aller, mais elle va y aller. Vous, les jeunes, si je ne le vois pas à mon époque, ouvrez bien l'œil. Elle est finie. Apprenons toujours, ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Maintenant, le plus terrible dans tout ça, c'est ceci. Écoutez ça. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, celle qui était transmise au saints, une fois pour toutes, évidemment, en ce qui concerne la foi. Il ramènera la foi des pères ou des enfants vers les pères, réprouvés en ce qui concerne la foi. Vous savez ce que réprouver veut dire? Si vous avez une Bible Scofield, il y a un H là, juste en haut là. Il est dit apostasie. Une apostasie, voilà ce que c'est. Maintenant, un petit instant, je veux aller vérifier quelque chose là. Je pense que je l'ai noté comme il faut. Je ne suis pas certain, mais je veux le dire et je veux le vérifier avant de le dire. Juste un instant, là. Réprouver en ce qui concerne la vérité, en ce qui concerne la foi. La foi. Il n'y a qu'une foi, c'est vrai. En ce qui concerne la foi, réprouver. Maintenant, je veux lire Luc 18. Un petit instant. Vous n'êtes pas, vous pouvez le noter, vous n'êtes pas obligé de le lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'a d'égard pour personne. Il y avait aussi dans la même ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, à lui, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bon, voilà la question. C'est à ceci que je voulais en venir, dans Apocalypse 10. Nous y arriverons dans quelques minutes, avec un autre verset de l'Écriture. Il a dit, « Au jour du message du septième ange, le mystère de Dieu devrait être terminé. » Voici la question, c'est, si vous suivez le même ordre d'idées, en cette heure, est-ce qu'il sera terminé? Trouverai-je la foi? Est-ce que Malachie 4 sera accompli en ce temps-ci? Ramener la foi des enfants à la foi des pères, l'originel, la parole, voyez? Réprouver Jannès et Jambrès, de même qu'ils s'opposèrent. Maintenant, de même. Écoutez, 2 Timothée 3:8, de même que s'opposèrent à Moïse, de même dans les derniers jours, ces mêmes réprouvés viendront. Vous voyez ce qu'il est dit là? Ayant l'apparence de la piété, des oints. Maintenant, on va juste revenir là-dessus et lisez-le quand vous rentrerez chez vous. Comme ça, je vais pouvoir terminer ce matin si possible. Réprouver en ce qui concerne, pas réprouver dans leur vie. Ce sont des hommes bien, cultivés. Maintenant, remarquez, quand Moïse est descendu en Égypte avec un message qui était « Ainsi dit le Seigneur » et qu'il a été confirmé, il a appelé Israël, qui était un peuple, pas une église. Israël était un peuple, il n'était pas du tout une église. En effet, le mot « église » veut dire « ceux qui sont appelés à sortir ». Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, une fois qu'ils ont été oints sous la parole et qu'ils ont été appelés à sortir, ils sont devenus l'Église de Dieu. Et après, ils ont rétrogradé parce qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu et qu'ils ont écouté un faux prophète. J'espère que cela pénètre profondément. Israël, qui était un peuple de Dieu, est sorti sous la main de Dieu, loin de la parole, de la puissance de Dieu. Il a vu les prodiges et les miracles de Dieu. Ensuite, pendant que Dieu avançait avec eux, un faux prophète est arrivé, loin, et il a donné un enseignement contraire à la parole de Dieu originelle, qu'ils avaient entendue, et chacun d'eux a péri dans le désert, à part trois personnes. Maintenant, arrêtons-nous ici. Ce qui arriva du temps de Noé, où huit âmes furent sauvées à travers l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot, où trois sortirent de Sodome, arrivera de même au temps où le Fils de l'homme sera révélé. Tout ce que je fais, c'est de citer les Écritures, la parole du Seigneur, et les cieux et la terre passeront. Ce sera une minorité. Remarquez bien, là, Moïse va vers Aaron. Moïse devait être Dieu. Dieu lui a dit d'être Dieu. Il a dit, tu seras Dieu et qu'Aaron, ton frère, soit ton prophète. Tu mettras les paroles dans sa bouche, puisque tu ne sais pas parler comme il faut. Il a dit, mais qui a rendu l'homme muet? Qui a donné à l'homme de parler? C'est le Seigneur. Et il est descendu là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle véritable et juste que Dieu lui avait dit de faire. Dieu lui avait dit, va et jette ton bâton. Il l'a ramassé et c'était un serpent. Il l'a ramassé et il était redevenu un bâton. Il a dit, va faire ça devant Pharaon et dis, ainsi dit le Seigneur. Et quand Pharaon a vu ça, comme on pourrait le dire, voyons, quel tour facile de magicien. Il a dit, c'est facile comme tout, c'est de la télépathie ou quelque chose, tu sais. On a des hommes dans notre organisation qui peuvent faire pareil. Viens ici, l'évêque un tel. Et toi, viens donc ici. Nous en avons qui peuvent faire pareil. C'était Satan qui parlait à travers Pharaon. C'était Dieu qui parlait à travers Moïse. Mais regardez bien cet homme qui arrive. Jannès et Jambres se sont présentés devant Moïse et publiquement, devant le peuple, ils ont fait tous les miracles que Moïse pouvait faire. Ils séduiront même les élus si c'était possible. Pas vrai? Ils ont fait la même chose que ce que Moïse avait fait. Vous saisissez? Maintenant, souvenez-vous, c'est ainsi dit l'Écriture, que cela se répétera encore dans les derniers jours. Quelle était la différence entre Moïse et Jambres? Moïse a dit qu'il y ait du sang dans l'eau. Et les faux prophètes, ils ont dit, c'est sûr, nous aussi, on va mettre du sang dans l'eau. Et c'est arrivé. Alors, Moïse a dit qu'il y ait des puces. D'où est-ce qu'il prenait ça? Directement de Dieu, voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voyons, c'est sûr, nous aussi, on peut faire venir des puces. Et ils l'ont fait. Chaque miracle que Moïse pouvait faire, eux aussi, ils pouvaient le faire. Souvenez-vous-en, ne l'oubliez pas, et on va y venir tout à l'heure. Ils peuvent faire tout ce que les autres peuvent faire, mais ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. Ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. Maintenant, remarquez, ils l'ont fait. Mais Moïse, le vrai prophète envoyé par Dieu, commissionné par Dieu, il n'a pas argumenté avec eux pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas. Il les a simplement laissés tranquilles. Il les a simplement laissés faire. Ils sont prophètes pour leurs organisations. Mais allez-y, Moïse a simplement continué son chemin. Il écoutait Dieu. Tout ce que Dieu lui disait, maintenant, fais ceci. Moïse allait le faire. Il faisait quelque chose de nouveau. Alors, ce qu'il faisait, chacun d'eux avait une sensation ou quelque chose. Et les voilà qui rappliquaient. Eux le faisaient aussi. Exactement ce que Moïse avait fait. Maintenant, remarquez, ces gars-là sont apparus. Oh, les amis, ne manquez surtout pas ça. Ces imposteurs, ces imitateurs, sont apparus après que le vrai était sorti en premier. Voyez? Ils viennent pour imiter. Vous voyez, forcément, le diable ne peut rien créer. Il ne fait que pervertir l'original. Et qu'est-ce que le péché? C'est la justice pervertie. Qu'est-ce que l'adultère? L'acte juste perverti. Qu'est-ce qu'un mensonge? La vérité déformée, une perversion. Regardez Anania, une perversion de la parole originelle. Regardez Balaam, une perversion de la parole originelle. Regardez Sédécias, la perversion de la parole originelle. Et la Bible a dit que ces hommes-là sortiraient après, celui qui pervertit, pour pervertir la parole originelle, confirmée et prouvée comme étant la vérité. Fais l'œuvre d'un évangéliste dans la pierre angulaire, là. Remplis bien ton ministère, car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils vont se mettre à faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est en ordre, on a les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Et ils se feront détourner de la vérité et seront attirés dans des fables, des dogmes. Oh, la vigilance du Saint-Esprit, la crainte respectueuse qui s'empare de l'âme d'un homme quand il se met à réfléchir là-dessus. Combien c'est réel et clair devant nous. Déterrez la première pierre, ici dehors, et lisez donc le bout de papier qu'on a mis dedans, il y a 33 ans de ça. Voyez ce qu'il a dit là, sur la 7e rue, le matin où on a posé cette première pierre. Maintenant, regardez bien, regardez ici à la rivière, quand l'ange du Seigneur est descendu sous la forme d'une colonne de feu, alors que des centaines d'églises, de gens d'église, étaient là, debout sur la berge. Ce qu'il a dit, voyez si cela ne s'est pas accompli. Voyez ce qui est arrivé. C'est tellement dur. Je sais que ça semble dur, frère, là-bas. Mais c'est, la Bible dit, Jésus lui-même a dit que ça séduirait même les élus, si c'était possible. C'est inévitable. Ils ne seront jamais capables de le voir. Si c'était possible, même les élus seraient séduits. Remarquez, ces gars-là sont apparus après que le vrai oint de Dieu a été envoyé par son vrai prophète, Moïse. Et quand Moïse faisait quelque chose, eux en faisaient une imitation. Maintenant, frères, sœurs, ici, c'est ma propre église. J'ai le droit de prêcher ce que je veux, tant que cela vient de la parole de Dieu. Et je ne vous condamne pas, vous, mais on va sonder ça par rapport à l'époque et à l'heure que nous sommes en train de vivre. Salutations à frère Raddle, à Junior Jackson et à ceux qui sont là, de nos églises fraternelles. Je les ai oubliés tout à l'heure. Je pense qu'eux aussi, ils nous sont reliés par téléphone ce matin, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'église. Pensez-y, là, juste une minute. Ils ont fait les mêmes miracles que Moïse avait fait. Moïse a fait venir des puces. Ils ont imité ça et ont fait venir des puces. Voyez, Dieu a dit, « Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. » Satan s'est présenté là et il a dit, « Certainement, tu ne mourras pas. Tu seras simplement plus sage. Tu auras une meilleure organisation, une meilleure... » Vous savez, tu sais, tout ira mieux pour toi. Tu auras plus de lumière. Vous voyez, simplement une perversion. Est-ce que... Et souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur, selon 2 Timothée 3:18, que dans les derniers jours, si Jannès et Jambres seraient sur la terre. Maintenant, je veux vous faire remarquer qu'il y en a deux, vous voyez, des imitateurs. Maintenant, nous allons en revenir à Sodome tout à l'heure, à ces trois, retrouver ces trois anges qui sont descendus et voir l'imitation et tout, vous voyez, pour voir lequel est le vrai et lequel est le faux, voyez, voyez. Remarquez, ils ont fait les mêmes miracles, mais remarquez, ils en ont fait une imitation après que la vraie parole avait été ointe par celui qui était le vrai envoyé de Dieu. Ils ont suivi en deuxième. Je me demande si on pourrait réfléchir un instant. En prenant les gens par la main, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 20 ans de ça, on voyait un signe. Alors, oh là là, des signes, il y en a eu encore plus, un peu partout. Et tout le monde, l'un, c'est dans sa main droite, l'autre, c'est dans sa main gauche, l'autre, c'est par l'odeur. Vous voyez, toutes sortes de... Et je me demande, Dieu ne me permet pas, pour le moment, de vous dire ce qui était vraiment la vérité. Mais un jour, vous le saurez. Ça, c'était seulement pour manifester leur folie. Ce n'était pas juste au départ. Je vous le dirai un jour, si le Seigneur le permet. Remarquez, ils ont fait les mêmes miracles, mais ils ne... Remarquez, ils ne les ont pas faits tant que la parole originelle n'est pas sortie d'abord. C'est comme ça que Satan a fait dans le jardin d'Éden. C'est comme ça qu'il a toujours fait. Qui a prophétisé le premier? Moïse. Qui a paru le premier? Moïse ou Balaam? Moïse. Qui a paru le premier? Jérémie ou Anania. Vous voyez ce que je veux dire? Remarquez, ils ont copié des imitateurs charnels qui étaient sincères, qui pensaient rendre un service à Dieu, comme David la semaine dernière. Mais c'était une imitation charnelle. Je fais une pause là. Je veux que vous réfléchissiez entre ces observations. Si je ne le dis pas, certainement que le Saint-Esprit le révélera, en particulier aux élus. Voyez? La dénomination de Pharaon dit, on a des hommes qui peuvent faire la même chose que ça. Et ils l'ont fait. Voyez? Pourquoi Pharaon a-t-il fait ça? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Pourquoi est-ce que Dieu enverrait là-bas un vrai prophète ou un, produire un signe devant Pharaon, pour ensuite permettre qu'une copie dénominationnelle se présente devant le peuple, pour en faire une imitation? Pourquoi permettrait-il qu'un imitateur soit suscité pour faire ça, pour faire exactement la même chose que ce que le véritable Esprit de Dieu avait fait? Vous voyez, l'Écriture doit s'accomplir. Remarquez, il a fait ça pour endurcir le cœur de Pharaon et des Égyptiens, pour prouver que Moïse n'était pas le seul à avoir la parole. Eux pouvaient tout faire exactement comme Moïse. Et pourquoi Dieu a-t-il permis que cette chose arrive dans les derniers jours? Alors, la même chose que l'esprit de mensonge a dit à Sédécias. Comment allons-nous faire pour que Akab aille là-bas et que ces choses s'accomplissent? Comment va-t-il faire pour que les gens qui mettent leur confiance dans leurs églises aillent là-bas et que cette chose qu'il a prédite s'accomplisse? Il, dans cet âge de l'église de Laodicée, parce que tu dis que tu es riche et que tu n'as besoin de rien, je suis assise comme une reine, tu n'as rien, tu ne sais donc pas que tu es misérable, malheureux, aveugle, et je te conseille de venir acheter de moi, il a dit, de l'huile et de l'or. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il permis que cette imitation survienne en ces derniers jours, quand ces choses s'accomplissent par la vraie parole de Dieu? Permettre que des imitateurs arrivent et fassent la même chose, alors qu'ils renient la vraie parole de Dieu. Il l'a fait dans le cas de Moïse. Pharaon l'a fait contre Moïse. Et eux, Jannès et Jambres, ils l'ont fait contre Moïse. Et la Bible dit que cela se répétera encore dans les derniers jours. Nous y voici. Maintenant, si ce n'est pas là l'Écriture qui s'accomplit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Moïse a fait tout un plat de sapes et leur dire, « Hé là, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le seul qui a été établi pour faire ça. Hé là, arrêtez ça tout de suite. » Il les a simplement laissés faire. Laissez-les aller. Rappelez-vous, la Bible a dit, « Comme leur folie a été manifestée, de même ceux-là, dans les derniers jours, seront manifestés. » Quand l'épouse sera enlevée et emportée dans le ciel. Remarquez, Moïse, la vraie parole manifestée, n'a jamais rien dit. Il a simplement laissé faire. Mais il l'a fait pour endurcir le cœur de Pharaon, pour séduire Pharaon. Il a fait exactement la même chose pour séduire Akab. Et ce petit homme qui s'est tenu là, tout seul, le petit Miché, qui leur a dit, « Ainsi dit le Seigneur !» Et en voici un autre, loin, « Ainsi dit le Seigneur !» Et contraire l'un à l'autre. Nous sommes là, aujourd'hui, avec l'ainsi dit le Seigneur, que le baptême d'eau dans les derniers jours doit se faire au nom de Jésus-Christ. Et un autre va se tenir là, accomplir des miracles, et un trinitaire. Montrez-moi le mot trinité dans la Bible. Montrez-moi où il y a trois dieux. Montrez-moi où on peut trouver des choses semblables. Elles ne sont pas dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de semblable. Personne qui ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, en utilisant ces titres. Toutes ces choses... Oh, c'est très bien, sœur. C'est très bien. Gardez-les volants, vos cheveux courts. C'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci, cela ou autre chose. Oh, ce sont des absurdités de vieux schnock. Mais la Bible l'a dit. Et il a promis que dans les derniers jours, il enverrait l'esprit d'Élie. Et qu'il appellerait les gens, les enfants de Dieu, à revenir à la foi originelle. Celle du commencement, de la parole. Cette parole confirmerait le Fils de l'homme dans les derniers jours. La même chose qu'à Sodome. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a promis de le faire. C'est la promesse de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Remarquez, ils ont fait la même chose, exactement que Moïse, jusqu'à ce que Dieu en ait assez. Maintenant, souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur, que cela arrivera en ce jour-ci. Maintenant, cherchez partout dans le monde. Prenez chaque secte, prenez chaque clan, prenez chaque homme, prenez chaque église. Je vous somme, au nom de Christ, de le faire, vous les prédicateurs. Je vous somme de lire les journaux et de considérer partout où vous voudrez aller pour voir si ce n'est pas ici sur terre, en ce moment même. Voyez, voyez. Alors Matthieu 24, 24, c'est tout à fait vrai. Il s'élèvera des faux oints dans les derniers jours. Ils seront des faux prophètes et ils en séduiront beaucoup. Observez-le dans les types maintenant, comme on les voit là. Vous voyez, ils en séduiront beaucoup. Des prophètes au pluriel, des Christ, des oints au pluriel, beaucoup de sortes différentes, les méthodistes, vous savez, et les baptistes, et les pentecôtistes, et tout, voyez. Mais il y a un esprit de Christ véritable, et c'est la parole faite chair, comme il l'avait promis. Maintenant, nous allons avancer encore un peu et prendre d'autres passages des Écritures, jusqu'à ce que Dieu en ait assez, et alors ça a été fini. Leur folie a été manifestée. Remarquez, souvenez-vous, la balle a exactement la même apparence que le grain de blé, voyez. Or, vous n'auriez pas pu dire, il y a longtemps, dans l'âge de Luther, que la tige était le blé. Pourtant, elle contient la vie. La tige, elle est bien. La vie dans la tige, c'était bien. Mais souvenez-vous, la vie a continué à avancer. Elle est passée d'Élisée à Élie. La vie continue à avancer sans arrêt. Mais souvenez-vous, elle en est à un autre stade. Elle ne peut pas rester à ce stade-là. Nous ne pouvons pas manger la charogne d'un autre âge. Nous ne pouvons pas manger de la charogne pentecôtiste, méthodiste ou baptiste. Vous voyez, c'est devenu de la charogne. Nous avons de la nourriture fraîche, la parole de cette heure et tout. Souvenez-vous, la balle est exactement comme le grain de blé. Vous ne pouvez pas, ça ne lui ressemblait pas dans la pousse, ça ne lui ressemblait pas dans les grettes, mais ça lui ressemblait dans la balle. Ça, c'est certain. Ça ne lui ressemblait pas dans Jésus-Christ, le même hier, dans Luther. Ça ne lui ressemblait pas dans Wesley, mais ça lui ressemble dans la Pentecôte. Ça, c'est certain. De séduire même les élus, si c'était possible. Voyez, voilà vos âges. Mais souvenez-vous, cette église pentecôtiste des derniers jours, c'était celle de Laodicée. Et Christ a été mis dehors, le noyau, le blé lui-même. Quand il a essayé, souvenez-vous, quand il a essayé de se manifester dans l'église, on l'en a sorti. C'était encore une église. Elle prétendait en être une. Ointe. Mais voici la parole. Christ lui-même, c'est la parole ointe qui va venir chercher le reste de son corps, l'épouse. Les oints de la même eau qui a arrosé le blé, comme on en a parlé, et qui arrose aussi l'ivraie, les oints. Il n'y a que les élus ou les prédestinés qui seront capables de déceler la différence entre eux. C'est Éphésiens 5, 1, là, qui vous le dit, qui vous dit ce qu'il en était. Ce sont des oints. Tout le monde dit, gloire à Dieu, ici nous avons la liberté. Alléluia, nous, oh, alléluia, nous parlons en langue et nous sautons. Nous avons la liberté pour les femmes, alors que vous autres, vous essayez de les soumettre à toutes sortes de choses. Voyez, allez-y, il n'y a rien qu'on puisse y faire. Vous dites, eh bien, nous parlons en langue, nous crions, nous dansons par l'esprit, nous prêchons la parole. Absolument, rien à dire contre ça. Ces hommes aussi, dans la Bible, là, ils ont fait pareil. Jésus a dit que ça séduirait même les élus, si c'était possible, même les élus. Maintenant, remarquez la balle. À partir du grain originel, le grain qui est allé en terre, il n'était pas du tout une organisation. C'était un grain en lui-même, mais quand cela a germé, ce n'était pas un grain, c'était une organisation. Voyez-vous, des feuilles, du blé. Ensuite, il est passé à un autre stade, qui est celui de l'aigrette. Encore là, ce n'était pas comme au commencement, c'était une organisation. Il est passé dans la balle, beaucoup de feuilles. La Pentecôte, là, il a presque pris forme. Regardez-le, il prend forme tout le temps. Presque exactement pareil. Il a exactement la même apparence qu'un grain de blé, quand vous voyez la petite enveloppe, là. Mais finalement, il est manifesté, et sans organisation. Il n'y a plus de porteur. L'organisation, ce n'est qu'un porteur. Plus de porteur. La tige doit mourir, la balle doit mourir, tout le reste doit mourir. Mais le blé continue à vivre. C'est le corps de la résurrection. Il descend là, et il vient les prendre. Ceux qui sont les derniers seront les premiers. Et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Vous voyez, il vient les prendre tout droit dans la résurrection. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Remarquez, le grain est... La balle a exactement la même apparence que le grain. Et un homme qui fait la culture du blé, ou quelque chose du genre, en regardant, il dirait, « Gloire à Dieu, j'ai une récolte de blé », alors qu'il n'a pas un seul grain de blé. Cela a exactement la même apparence que le blé, mais c'est la balle. Maintenant, mes amis, revenez en arrière avec moi. Où le premier réveil a-t-il eu lieu? Après la mort, les jours où le grain de blé devait tomber en terre. Le corps, l'épouse de Christ. Christ a organisé son épouse, n'est-ce pas? Son église. Il ne l'a pas organisée. Il a simplement établi des apôtres, des prophètes, et ainsi de suite, dans l'église, pour qu'elle garde sa pureté. Mais à Nicée, à Rome, 306 ans plus tard, ils l'ont organisée. Et ils en ont fait une organisation. Pas vrai? Et elle est morte. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette église étaient mis à mort. Elle est restée sans bouger pendant des centaines d'années dans la terre. Mais au bout d'un moment, elle est apparue dans Luther. Les premiers petits brins de blé sont apparus. En deuxième, elle a bourgeonné à partir de là. Ils ont continué. Il y a eu Zwingli et ainsi de suite. Et les autres organisations et ainsi de suite. Ensuite, au bout d'un moment, les Anglicans sont apparus. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voici Wesley qui arrive, avec un nouveau réveil, l'aigrette, qui ressemble un peu plus au blé. Ensuite, qu'est-ce que c'est devenu? Ça s'est organisé, ça a séché et c'est mort. La vie est allée directement dans la balle. Et la balle est sortie, une ressemblance presque parfaite avec le blé. Mais finalement, sa folie a été manifestée dans les 8 ou 10 dernières années. Plus particulièrement, dans les 3 dernières années. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'éloigne du blé. Maintenant, pourquoi ce grand réveil qui dure depuis 20 ans n'a-t-il vu naître aucune organisation? Ce sont des prophètes oints, des enseignants oints et tout. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y a rien après le grain. Vous voyez, il est là de nouveau, sans organisation. Oh là là, un aveugle pourrait voir ça. Il ne peut pas former d'organisation, tant il est fermement opposé à cela. C'est le grain de blé lui-même. Le Fils de l'homme sera manifesté. Le grain de blé lui-même sera là de nouveau. Le Fils de l'homme dans les derniers jours. Et il en viendra de fausses imitations dans les derniers jours qui vont presque séduire les élus si possible. Regardez leurs balles, des organisations qui s'éloignent en ce moment. Ça permet seulement au blé de se faire connaître aux élus qui en font partie. Remarquez comme c'est présenté d'une façon magnifique ici. Seulement les oints vont pouvoir, les vrais, les élus, les prédestinés. Éphésiens 5.1, ou 1.5 plutôt. Ils y seront destinés, élus. Ce sont les seuls que ça ne séduira pas. Remarquez, les prophètes oints seront faux. Et là, au milieu de tout ça, il y aura des vrais oints. Comment allez-vous faire la différence? Par la parole, comme nous l'avons vu en type. Est-ce que vous le voyez? Dites Amen. Voyez, remarquez, les oints, il n'y a que la parole qui va les distinguer, pas les prodiges. Oh non, ils feront les mêmes prodiges, mais c'est la parole qui les a distingués, certainement. Ils ont tous prophétisé, ils ont tous fait ceci, cela et autre chose, certainement, exactement pareil. Jésus a dit qu'ils feraient la même chose, mais c'est la parole qui les a distingués, remarquez, pas les prodiges. Avez-vous remarqué? Jésus a dit ici, dans Matthieu 24, il n'a pas dit, il s'élèvera des faux Jésus dans les derniers jours. Oh non, il ne tolérerait jamais cela, non. Prenez un pentecôtiste, qui est un vrai pentecôtiste, et qui dirait de lui-même qu'il est Jésus. Voyez, prenez un faux méthodiste, ou un baptiste, ou quelqu'un comme ça, ou l'une des organisations qui dirait, nous sommes Jésus. Ils s'en gardent bien. Ils ne vont pas faire ça. Mais la Bible a dit qu'ils seraient de faux Christ, pas des Jésus, mais des faux Christ. Ils n'admettraient pas de dire « Je suis Jésus ». Oh non. Mais ils sont des faux Christ et ils ne le savent pas parce qu'ils sont contraires à la parole et Dieu le confirme. Maintenant, j'amène tout ça à une épreuve de force, là, parce que vous avez vu ces gens faire la même chose que ce qui a été fait par les vrais. Et Jésus l'a dit. Maintenant, comme je vous l'ai bien dit, vous les gens qui êtes là-bas au pays du téléphone, je ne vous condamne pas, mais ici, c'est mon église et mon groupe sur lequel le Saint-Esprit m'a établi, et je dois leur dire la vérité. L'heure est avancée. Donc, ils ne toléreraient pas cela, mais des faux Christ, des faux oints, qui auront presque chaque prodige et chaque lettre de la parole. Ils croient au baptême du Saint-Esprit, Absolument. Ils croient tout ceci. Mais oui. Ils croient parler en langue. Mais oui. Ils croient que les signes, les prodiges, les accompagnent. Que les signes vont les accompagner. Mais oui. Ça, ce ne sont pas les méthodistes. Ce ne sont pas les baptistes. Non, non. Ce sont les pentecôtistes. Vous voyez, nous sommes maintenant dans les derniers jours. Or, au premier âge de l'Église, ils n'auraient jamais remarqué cela. L'âge de l'Église méthodiste, ils ne l'ont pas remarqué. L'âge de l'Église baptiste, ils ne l'ont pas remarqué. L'âge de l'Église presbytérienne, ils ne l'ont pas remarqué. Mais la Pentecôte, tellement proche de la vraie chose. C'est là que le blé, la balle, a presque la même apparence que le blé. Eux ne l'auraient jamais remarqué, voyez. Eux, non. Mais dans les derniers jours, dans ce jour-ci, oui, monsieur, remarquez, exactement comme c'était au commencement, c'est comme ça que ce sera à la fin. Comme Ève a mal interprété un seul mot, c'est Satan qui a fait ça à Ève. Elle l'a cru. Elle, pas lui. L'Église, pas lui. Voyez. C'est l'Église qui a reçu la fausse parole. Voyez. Pas Adam, Ève, pas le Christ. L'Église, l'épouse, lointe, celle qui prétend être, qui se donne le nom d'épouse. Vous voyez, c'est elle qui a reçu la fausse parole. Vous pouvez voir ça, n'est-ce pas? Voyons, ça s'enchaîne comme avec un lacet, comme les cils sur votre œil. Voyons, partout où vous regardez, dans la Bible, elle relie tout ça ensemble. Ève, pas Adam. Ève l'a cru, pas Adam. L'épouse d'aujourd'hui, la soi-disant, l'a cru, pas le Christ. L'épouse, on a de toutes sortes. La soi-disant épouse, les mêmes prodiges, les mêmes miracles, la même en tout. Mais ce n'est pas la vraie, voyez, pour séduire les élus, si c'était possible. Maintenant, rapidement, si on arrive à terminer d'ici 15 minutes, on sera à l'heure. Suivez très attentivement, là, pour ne pas le comprendre de travers. Bon, non. Ils ne toléreraient pas de se faire appeler des faux Jésus. Ils ne toléreraient pas de s'appeler Jésus. Certainement pas. Ça, c'est trop évident. N'importe qui saurait ça. N'importe qui saurait qu'ils ne sont pas Jésus. Peu m'importe qu'ils aient de l'huile sur le dos et du sang sur les mains et partout autour des yeux. On saurait quand même que ce n'est n'importe qui, pourvu qu'il ait un peu de bon sens, saurait que ce n'est pas Jésus. Voyez, ils ne toléreraient pas cela. Seulement, ils se disent les oints. Et ils font des prodiges et des miracles qui séduiraient presque les élus. Mais il s'élèvera des faux Christ, des oints, et ils séduiront les élus si c'était possible. Maintenant, soyez très attentifs. Ne manquez pas cette déclaration, parce qu'elle est digne d'être écoutée. Il fait seulement mettre un peu de ruban adhésif sur le microphone, ici, pour l'empêcher de bouger. J'ai transpiré. C'est tombé sur le ruban, vous voyez? Et donc, ce sera exactement comme la Bible a dit que ce serait. Voyez? Remarquez, pas des faux Jésus, des faux Christ. Ils croient qu'ils sont oints, mais ils savent qu'ils ne sont pas Jésus. Vous voyez? Ça, c'est trop évident. Si des hommes se présentaient là aujourd'hui pour dire, regardez les marques dans ma main, regardez donc mon front, je suis Jésus. Eh bien, voyons, nous savons que ça, c'est faux. Et souvenez-vous, Jésus n'a jamais dit que ce sont des hommes comme ça qui viendraient. Il a dit qu'il viendrait des faux Christ, des Christ au pluriel, des dénominations, et ainsi de suite, des oints, oints d'un esprit dénominationnel, et non de la parole. Vous me suivez? Pas des faux Jésus, des faux Christ, des faux oints, voyez? Oh, comme c'est évident. Nous, certainement que vous ne le manquerez pas. Maintenant, souvenez-vous, je vous ai toujours dit qu'il y a trois catégories de gens. Il y a trois races de gens. Cam, Sem et Japhet. Trois races. Trois catégories. Et j'ai dit que ce sont le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Voyez? Il y avait Moïse, le croyant. Il y avait Jannès et Jambres, les incroyants. Voyez? Il y avait Balaam, Moïse, toujours ces trois catégories de gens. Trois catégories. Le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. Maintenant, souvenez-vous, l'incroyant, l'Église dénominationnelle, il ne croit pas aux signes du tout. Froide, formaliste, empesée. L'Église dans le monde, la dénomination. Mais le soi-disant croyant, c'est la balle. C'est celui qui fait semblant de croire. Et puis, il y a un vrai croyant qui est vraiment authentique. Maintenant, regardez-les aller, là, pendant un petit instant. Et remarquez comme ils sont audacieux, ces incroyants, ou ces soi-disant croyants et ces incroyants. Oh là là, qu'ils sont audacieux. Regardez, jusqu'à Satan, qui s'est tenu là dans la présence de la parole véritable et qui a dit, il est écrit. Pas vrai? Pourquoi Satan a-t-il fait ça? C'est parce qu'il n'a pas reconnu la parole pour cette... Il savait que la parole était pour cette heure-là, mais il doutait que cet humble petit homme-là soit la parole. Si tu es le Fils de Dieu, je sais que le Fils de Dieu viendra, parce qu'il est dit qu'il ferait cela. Et il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Tu vois? Prouve-le-moi, fais un miracle, que je te vois faire. Voyez, voyez? Vous voyez, l'incroyant, le soi-disant croyant, l'imitateur. Regardez Judas, qui était là, au milieu d'eux, au même moment, un soi-disant croyant. Voyez, remarquez, il y avait la parole véritable. Comme ils sont audacieux. Voyons, ne fais pas attention à ces absurdités. C'est sans intérêt. Ne va pas là. C'est beaucoup de tapage, rien d'autre. C'est sans intérêt, cela. Tout cela, ce ne sont que des contes. C'est dans ta tête que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Se tenir là, directement dans la présence de la parole, et dire ça. Satan n'a pas hésité à se présenter là, comme la Bible a dit ici dans Jude. Même l'archange, quand il contestait avec Satan, il a dit que le Seigneur te réprime, contre la parole elle-même. Et voici l'Antichrist, le oint, qui est là à s'opposer directement à la véritable parole du jour, Jésus-Christ, et qui dit, il est écrit. Regardez, au dernier jour, ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Oh là là, la raison pour laquelle les élus ne seront pas séduits, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont la parole, voyez? Exactement comme la vie qui est dans la racine, comme je le disais tout à l'heure. Elle ne peut pas se renier elle-même, vous voyez? Elle est la parole, et dans la saison de la parole, c'est vrai. Exactement comme Jérémie, il savait. Peu importe ce que Anania disait, il savait où il en était. Et c'est exactement comme ça que Moïse a fait, et tous les autres. C'est-à-dire, il savait, peu importe ce que le faux prophète disait, que ça, c'était la parole de Dieu. C'était écrit. Voilà la raison pour laquelle Michée pouvait dire, « Très bien, attends un peu, et tu vas voir. » Akab a dit, « Je crois mes prophètes. Mon organisation a raison. Quand je reviendrai en paix, mettez ce gars-là en prison là-bas. Je vais m'en occuper. Donnez-lui du pain d'affliction. Mettez-le dehors. N'ayez aucune communion fraternelle avec lui. Quand je reviendrai en paix, on va s'occuper de ce gars-là. » Michée a dit, « Si jamais tu reviens, le Seigneur ne m'a pas parlé. » Il savait qu'il avait l'ainsi dit le Seigneur et que sa vision était tout à fait conforme au ainsi dit le Seigneur. Pas pour une autre saison, mais pour cette saison-là. Amen. Alléluia. La saison. Audacieux. Se tenir là et contester avec un archange. Il a été dit que les fous marcheront avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser les pieds. C'est vrai. La raison pour laquelle les élus, a dit Jésus, ne seront pas séduits, c'est parce qu'ils sont cette parole. Ils ne peuvent pas être autre chose. Ils ne peuvent pas entendre autre chose. Ils ne connaissent rien d'autre. C'est vrai. Souvenez-vous, Moïse ne s'est pas laissé entraîner par toutes leurs imitations. Est-ce qu'il l'a fait? Moïse a dit, « Une minute là, Pharaon, tu sais quoi? Le Seigneur m'a dit de faire ça. Mais gloire à Dieu, je vois que tes hommes peuvent faire la même chose. Alors, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais me joindre à vous. » Ça ne ressemble pas à un prophète de Dieu. Non, pas du tout. Il a tenu aussi ferme que possible. Il savait précisément que Dieu s'en occuperait d'une manière ou d'une autre, parce qu'il l'avait promis. « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. » Il savait, alors il ne s'est pas joint à eux. Oh non, il est resté là avec eux. Il ne voulait pas de leur dénomination. Il est resté là avec Dieu. Il ne s'est pas laissé entraîner par toutes les choses qu'eux pouvaient faire. Quand ils faisaient une chose, ils faisaient venir des poux. Eux faisaient venir des poux. Ils faisaient venir du sang. Eux faisaient venir du sang. Qu'ils fassent venir n'importe quoi. Ils l'imitaient en tout. Ils suivaient. Il est simplement resté tranquille. Il savait exactement ce qu'il en était. Dieu était à l'œuvre. Vous comprenez maintenant? Vous prenez deux et deux, et ça fait quatre? On ne veut pas que ça chauffe trop fort. Alors, vous comprenez, voyez? Pourquoi? Ils ne seront pas séduits par cela. Le vrai croyant, c'est la semence prédestinée qui devait tenir en ce jour. Simplement aussi, Jésus a dit ceci, « Beaucoup viendront ce jour-là, en mon nom, et ils diront, « Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom ?» Jésus a dit, « Au jour de la fin, quand le temps sera complètement terminé et que la grande résurrection viendra, alors beaucoup viendront s'asseoir dans le royaume. Le royaume de Dieu est en vous. Beaucoup. La mauvaise herbe viendra. Elle s'asseoira en plein là avec le blé. Elle dira, « Une minute là, Seigneur. J'ai parlé en langue. J'ai crié. J'ai dansé par l'esprit. J'ai chassé des démons. J'ai parlé en langue. J'ai fait toutes ces choses. » Qu'est-ce qu'il a dit? Remarquez, « Vous, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai même jamais connus. » Qu'est-ce que l'iniquité? Demandez à quelqu'un. C'est quelque chose que vous savez que vous devriez faire et vous refusez de le faire. Ils connaissent cette parole, ils l'entendent. Vous écoutez cette bande, vous écoutez ce message. Vous voyez le Seigneur Dieu le dire, vous le voyez le confirmer, montrer que c'est vrai. Et vous le savez, c'est aussi clair que le soleil qui brille dehors. Mais vous, qui allez rester attaché à votre dénomination, restez attaché à ces choses fausses, vous, ouvriers d'iniquité. Oh oui, j'ai fait des grandes campagnes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Retire-toi de moi, toi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Mais le Saint-Esprit est descendu sur moi, je n'en doute pas le moindrement. J'ai parlé en langue, j'ai chanté dans l'esprit, j'ai fait, je n'en doute pas le moindrement. Aucun doute là-dessus. Oh, frère, sœur, quel état! C'est un temps où on devrait trembler. Où en sommes-nous? Cette parole est en train de prendre vie en ce moment. Remarquez, et oui, il a dit qu'il le ferait. Remarquez, vous, ouvriers d'iniquité, j'ai un passage de l'Écriture de noter ici. Je ne sais pas exactement où ça allait. J'ai pris tellement de temps. Je vais prendre un instant pour aller vérifier ça et voir ce que c'était. J'ai Matthieu 7, 21. Je ne sais pas exactement où ça va. Parfois, si je ne note rien avec, eh bien, alors quand je prêche comme ça, j'oublie à quoi je faisais référence pour ce passage de l'Écriture. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Des prophètes, des oints, pas vrai? Est-ce que nous n'étions pas prophètes? Est-ce que nous n'étions pas oints, un oint? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? Et n'ai-je pas chassé des démons en ton nom? Comment pouvez-vous faire ça et refuser d'être baptisé au nom de Jésus? Voyez? Oh là là! Vous voyez comme c'est trompeur? Ils avancent jusque-là, jusqu'à ce point-là, puis ils reculent. Ils avancent jusqu'à la parole, puis ils reculent. Maintenant, regardez ceci. On va tirer ça au clair un petit instant. Plusieurs me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, été des prophètes ?» Oui, j'ai parlé de ça dans Matthieu 24, 24. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur confesserai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quand vous y avez été confronté et que vous l'avez vu, que vous l'avez vu agir, que vous avez vu que c'était la parole, et par amour pour votre dénomination, vous y êtes resté attaché. Je ne vous ai même jamais connu. Peu m'importe combien de démons vous avez chassés, combien de ceci et de cela vous avez pu faire, je ne vous connaissais pas du tout. Balaam a dit, j'ai prophétisé en ton nom, et c'était exact. Cela s'est accompli, c'est tout à fait vrai. Mais quand ce n'est venu à la parole, tu l'as refusé. Oh frère, vous voyez où se trouve la séduction? Ce n'est pas pour ce qui est d'être prophète, pas exactement. Mais c'est quant à la parole, la vraie parole, la parole confirmée, manifestée. Vous, ouvriers d'iniquité, essayez, Satan a essayé, dans tous les âges, d'imiter la vraie parole. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Remarquez, venir jusqu'à la frontière et abandonner. Regardez bien ça. Il a dit dans Hébreux au chapitre 6, là, nous le lisions tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on reviendrait là-dessus et on va le faire pendant les 2 ou 3 minutes qui viennent. Il a dit, « Mais des épines et des chardons, ce qui est prêt d'être rejeté, et on finit par y mettre le feu. À la frontière, vous qui avez goûté le don céleste, goûté, autrement dit, vous l'avez vu. Vous ne pouvez pas y goûter comme ça avec la bouche, mais vous l'avez vu, et vous saviez que c'était la vérité. Vous saviez que c'était la vérité. Goûtez le don céleste et eut part au Saint-Esprit alors qu'il est descendu sur vous. Goûtez de la bonne parole de Dieu. Goûtez. Vous avez vu qu'elle était vraie et le Saint-Esprit est descendu sur vous, la mauvaise herbe dans le champ, et ensuite se détourner, reniant le Christ même qui vous a sanctifié et qui vous a appelé et qui a mis cette onction sur vous. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, pour ça. C'est impardonnable. Il est impossible qu'il puisse jamais arriver à la connaissance de la vérité, car il est impossible que ceux qui ont eu part au Saint-Esprit. Il est descendu sur la mauvaise herbe, vous voyez. J'ai pris le départ avec Jésus et, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Mais quand vous en arrivez à la parole, vous faites demi-tour. Ils ont eu part au Saint-Esprit et ils ont même goûté ou vu la parole elle-même manifestée. Et ensuite, s'ils s'en détournent, il est complètement impossible pour eux de jamais la voir ou de parvenir à elle. C'est ainsi dit l'Écriture. Maintenant vous, les cieux et la terre passeront, mais elle, non. Vous le voyez? Complètement impossible. La Bible l'a dit, et l'Esprit en rend témoignage. Remarquez, je vais vous donner un petit exemple. Regardez ces gens qui sont sortis en suivant la prophétie de Moïse, qui sont sortis de cette organisation, et qui sont sortis de tout en suivant la prophétie. Ils ont vu les grandes œuvres et les prodiges, et les choses comme ça, et sont venus jusqu'à la frontière au point d'entrée. Maintenant, lis, le voilà, ton nom dans le livre. Tu vois, tu as donc déjà réglé la question. Ah, pour vous qui n'êtes pas ici, et ceux qui sont dans les, sur les relais temporaires, c'est le docteur Livel qui est assis ici. Il travaille la grammaire de ce livre des sept âges de l'Église. Et le problème a été soulevé, ou la question, au sujet de votre nom enlevé du livre de vie de l'agneau. Vous voyez, ça a laissé bien des prédicateurs perplexes. Mais attendez d'avoir le livre, et vous comprendrez, si vous avez un tant soit peu de lumière en vous. Voyez, remarquez là, vous détournerez la tête, et vous refuserez même d'y regarder, si vous ne voulez pas le voir. Comme ma mère le disait, on ne peut pas faire sortir du sang d'un navet, parce qu'il n'y a pas de sang dedans. Remarquez, la lumière doit venir. Ça ne se trouve pas dans les ténèbres. La lumière vient aux ténèbres, et les ténèbres ne la perçoivent pas. Remarquez, maintenant, les oints de ce jour-ci. Comme Moïse a fait sortir les enfants d'Israël, ils ont écouté, ils étaient tous désorientés à cause de cette grande nation là-bas. Or, Israël était interdénominationnel. Il n'avait pas de pays, il n'avait pas de patrie. Il allait vers sa patrie. Nous n'avons pas d'église. Nous ne sommes pas. Nous allons vers une église. L'église des premiers-nés. L'église qui est dans la gloire. Pas l'église qui est sur la terre, selon l'homme. L'église qui est dans la gloire. Ceux qui sont appelés à sortir, prédestinés à la vie éternelle. Vous voyez, qui s'en vont à leur patrie. Et quand ils sont arrivés au point de traverser, ils ont douté de la parole et ils sont revenus. Après que Josué et Caleb et les autres étaient allés de l'autre côté et qu'ils avaient ramené une grappe de raisin pour leur prouver que le pays était là. La parole de la promesse de Dieu, c'est un bon pays, de lait et de miel. Et ils ont ramené ça, de ce côté-ci, pour leur prouver. Et ils en ont goûté. Et ils ont dit, « Ah, mais on n'y arrivera jamais. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péri dans le désert. Ils n'ont pas bougé de là. Et ils se sont organisés. Et ils sont tous morts. Sauf ceux qui étaient allés de l'autre côté, et on avait rapporté quelque chose. Josué et Caleb. Moïse, lui, il a été enlevé. Un type de l'Église qui attend, et de la résurrection de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et du corps qui est pris dans l'enlèvement. Vous voyez, les trois là, il faut garder les trois en ligne. Vous voyez? Alors, et pour le croyant, et pour l'incroyant. Voyez? Remarquez, comme c'était complètement... Souvenez-vous, Dieu n'a jamais pardonné ce péché. Alors, comment vont-ils faire pour entrer? Si ce sont des épines au départ, ce sont des épines à la fin. Seuls les prédestinés le verront. Soyez très attentifs là. Exactement comme à l'époque de Saint Martin, juste avant l'âge des ténèbres. Un petit homme très saint. Combien ont déjà lu les écrits de Saint Martin? Beaucoup d'entre vous. On est allé chercher les écrits de Saint Martin. Le prêtre a dit, mais il n'a pas été canonisé. Bien sûr que non, pas par eux, mais il l'a été par Dieu. Le Saint-Esprit nous a dit de le désigner, là, pour le troisième âge de l'Église. Voyez, regardez, comme c'était un saint homme, appelé, prédestiné. Ses parents, des païens. Son papa, un soldat. Il avait dû suivre ses traces et devenir soldat. Et à ce moment-là, il avait toujours cru qu'il y avait un Dieu quelque part. C'était un homme des bois qui pouvait voir Dieu. Un jour, il traversait une ville et il y avait un vieux clochard étendu là en train de mourir. Il demandait qu'on... Il faisait froid ce soir-là. Oh, il disait, « Donnez-moi quelque chose pour me couvrir. Je vais mourir cette nuit. » Personne ne voulait le faire. Et Martin est resté à l'écart. Il a observé pendant un moment. Personne ne voulait le faire. Il n'avait qu'un manteau. S'il lui donnait ce manteau, lui-même mourait de froid. Il était en service. Alors, il s'est dit, « Nous aurons tous les deux une chance de rester en vie si je partage avec lui. » Alors, il a pris son propre manteau. Il l'a fendu en deux avec son sabre et il a enveloppé le vieux clochard dedans. Il l'a enveloppé de son propre manteau. Tout le monde disait, « Regardez-moi donc cette drôle de sentinelle. Regardez-moi donc ce drôle de soldat, enveloppé d'une moitié de manteau. » La nuit suivante, il n'était pas en service et il était étendu sur son lit. Quelque chose l'a réveillé. Il a regardé et, debout dans la chambre, il y avait Jésus-Christ qui se tenait là, enveloppé de ce vieux morceau de tissu dont il l'avait enveloppé. Il a su tout de suite, « Ce que vous faites pour mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait, pour mon oint étendu là. » C'était un grand serviteur de Dieu. L'Église s'est moquée de lui, l'a persécuté, l'a mise à la porte et tout le reste. Mais c'était un prophète de Dieu. Ce qu'il a dit s'est accompli. Et beaucoup ont cru en lui, dans cet âge-là d'ailleurs. Je veux vous montrer combien le diable est trompeur. Un jour, il était assis dans son bureau. Tout à coup, un ange puissant apparaît, avec une couronne sur la tête, des souliers dorés, de la dentelle sur ses vêtements dorés. Et il dit, « Martin, me reconnais-tu ? » Il a dit, « Je suis ton Seigneur et Sauveur. Je suis celui qui t'a sauvé. Adore-moi, Martin. » Mais ce prophète, il savait qu'il y avait quelque chose d'un peu louche là-dedans. Alors, il restait là à le regarder. Il a dit, « Martin, je suis ton Sauveur, Jésus-Christ. Adore-moi. » Tu ne me reconnais donc pas, Martin ? Martin restait là à le regarder. Il repassait l'écriture dans sa tête. Il a dit, « Satan, éloigne-toi de moi. » Il a dit, « Tu as une couronne sur la tête. » Et la parole de Dieu dit que ses saints le couronneront à la fin de l'âge. Est-ce que ça n'aurait pas été tout un appât pour les pentecôtistes? Gardez l'œil sur la parole, frère. C'est là que ça rapporte. Un jour encore, au monastère, il y avait un vieux saint là-bas et un groupe de jeunes moines. L'un d'entre eux était un peu irritable. Regardez bien ça. Voici une bonne parabole pour aujourd'hui. Il voulait être quelque chose, au-dessus des autres. Il voulait montrer qu'il avait de l'autorité, quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux, de la classe en tout. Vous savez, quelque chose de très impressionnant. Il lui fallait de la classe. Il voulait toujours que les autres frères ne... Vous savez, il fallait qu'ils soient différents. Voyez, il, peu importe ce qu'il était, il était très arrogant. Il n'y avait que lui qui comptait. Personne ne pouvait rien lui dire. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Il fallait qu'il soit quelqu'un de grand. Il fallait qu'il soit à la hauteur des grandes sociétés. Vous me suivez? Voyez? Alors, il a dit, il a prophétisé. Il a dit, « Moi aussi, le Seigneur a fait de moi un prophète. Je suis prophète. » Or, il y avait un prophète identifié dans le pays, et c'était Saint Martin. Il était né prophète. Mais ce jeune-là a dit, ce jeune homme a dit, ce jeune moine d'à peu près 25 ans, il a dit, « Le Seigneur a fait de moi un prophète, et je vais vous le prouver. » Il a dit, « Cette nuit, le Seigneur va me donner une belle grande robe. Il va la mettre sur moi, une robe blanche, et je me tiendrai au milieu de vous. Alors, vous viendrez tous vers moi, voyez-vous, et vous serez à mes ordres. » Maintenant, comparez ça à aujourd'hui, vous voyez, je serai à la tête de l'organisation. Je vais veiller sur vous, les autres moines. Et assurément, cette nuit-là, les lumières se sont allumées dans le bâtiment. C'est ce que rapportent les écrits de Saint Martin. Lisez-le, et c'est authentique, c'est de l'histoire. Donc, les lumières se sont allumées, et tous les autres regardaient. Et voici qu'arrive, il portait une robe blanche. Elle s'est tenue au milieu d'eux. Il a dit, « Vous voyez ce que je vous ai dit ?» Seulement, c'est contraire à la parole. Et quand il est allé chercher le vieux doyen du collège, celui-ci a marché de long large un petit moment. Et il a dit, « Fiston, il y a quelque chose qui cloche. » Il a dit, « Il n'y a qu'un moyen. Le voici, il n'y a qu'un moyen pour nous de savoir. Ça semblait être surnaturel. » Oh, les pentecôtistes, eux, auraient gobé tout ça. La racine, le plomb, la ligne, l'hameçon et tout le reste. Il a dit, « Le miracle peut sembler juste, mais ça ne semble pas conforme à la parole. » Maintenant, nous avons quelqu'un comme ça, un prophète oint du nom de Martin. Viens te présenter devant lui. L'homme a dit, « Non, non, Martin n'a rien à voir là-dedans. » Et il a dit, « Tu y vas quand même. » Alors, ils l'ont pris par le bras pour l'emmener devant Martin. Et la robe a disparu. Vous voyez, séduire les élus, si c'était possible. Vous voyez, ils les reconnaissent. Jésus a dit, « Mes brebis connaissent ma parole. » Oh, vous dites, « Entendre ma voix, c'est sa parole. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Voyez, les prédestinés reconnaissent cela. Une parole étrangère ou une voix étrangère, ils ne la suivront pas. C'était le cas pour ces hommes-là. Ils ont refusé de suivre. Ils savaient qu'il y avait Martin, un prophète pour cet âge-là, que Dieu avait identifié par la parole, qui connaissait la parole. Et cet homme-là n'aurait pas tenu devant elle. Il a aussi dit, où que soit le cadavre ou la parole, là, dans la saison, ça sembleront les aigles. Or ça, c'est si vous voulez le noter, c'est Matthieu 24-28. Juste un peu avant, Matthieu 24-24, c'est quatre versets plus loin. Vous voyez, si vous voulez le lire, où que soit le cadavre, que soit la manne, que soit la parole, là, ça sembleront les aigles. Maintenant, il faut que je me dépêche. J'ai regardé là-bas et j'ai vu l'heure. Il est midi et 7 ou 8 minutes. Je vais faire très vite, ou bien nous pourrons terminer ce soir, comme vous voudrez. Ce matin ou ce soir, hein? Combien doivent rentrer chez eux aujourd'hui, après la réunion? Levez la main, voyez? Oh, on fait mieux de continuer. Je suis désolé de retenir les gens là, qui nous ont reliés par téléphone, comme ça, mais je vais me dépêcher. Ça vaut plus que votre argent. Moi, je crois que ça vaut plus, vous voyez? Votre argent va périr. Ceci, non, c'est la parole, voyez? Où que soit le cadavre, là, ça sembleront les aigles. Où que soit le cadavre, où que se fasse la mise à mort, là, ça sembleront les aigles. Où que soit la viande fraîche, la parole de la saison, là, ça sembleront les aigles. Mais une fois qu'elle est pourrie, alors les vautours vont se réunir en grand nombre autour. Eh oui, vous voyez ce que je veux dire? Quand quelque chose vient d'être abattu, voilà les aigles qui arrivent. Mais après, quand ça reste là et que ça pourrit, voilà les vautours qui arrivent. L'aigle n'aura rien à faire avec ça, voyez? Jésus a dit, où que soit le cadavre, où que soit tombée la manne, le soir où la manne fraîche tombe, là, ça sembleront les aigles pour la recevoir. C'est la manne du jour, voyez? Remarquez. Mais une fois que c'est pourri, qu'il y a des vers dedans, c'est là que les vautours arrivent. Ils ne peuvent pas le sentir tant que ce n'est pas pourri. Pas étonnant que Jésus se soit tenu là et qu'il ait dit, Jérusalem, toi qui as lapidé tous les prophètes, remarquez le pronom personnel là, vous voyez? Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je? Qui était-il? Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Comme une poule rassemble sa couvée. Toi qui as lapidé tous les prophètes que je t'ai envoyés. Cette grande église, Jérusalem. La Jérusalem, pas celle de cette terre, mais nous sommes de la Jérusalem d'en haut. D'où est venue la parole? Par prédestination, vous voyez? Pas l'ancienne Jérusalem qui périt, la nouvelle Jérusalem qui ne peut pas périr. Pas l'ancienne Jérusalem qui était construite par l'homme, mais la nouvelle Jérusalem construite par Dieu. Vous voyez? La parole, là-haut, en train d'être manifestée en ce moment. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais aller les préparer pour vous. Le Créateur, en train de construire les rues d'or et tout. Voilà celle qui ne périt pas. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je, depuis le commencement des temps, pas une troisième personne, quelqu'un d'autre, mais j'aurais voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule s'accouver, mais tu ne l'as pas voulu. Mais maintenant, ton heure est venue, voyez? Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Mais une fois que le cadavre est pourri, c'est là que les vautours s'assemblent, voyez? Remarquez, Moïse, il n'a jamais donné aux enfants de Dieu. Moïse était un aigle. Il n'a jamais donné aux enfants de Dieu les restes de Noé. Il avait la parole de Dieu fraîche. Le Seigneur Dieu m'a rencontré dans le désert. Il a confirmé sa parole. Et il m'a envoyé ici pour vous appeler à sortir. Ensuite, les imitateurs se sont présentés là. Ils l'ont imité, voyez? Mais il avait la parole de l'heure. En effet, Dieu avait dit à Abraham, celui qui avait la promesse, « Ta postérité séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans, mais je les visiterai et les ferai sortir par une main puissante. » Moïse a dit, « Maintenant, le Seigneur Dieu me parlera, il me montrera, il m'a dit ce qu'il faut faire, et je vais vous le dire. Il a dit, « Je suis m'a envoyé. » Je suis, non pas j'étais ou je serai, je suis au temps présent. La parole maintenant, pas la parole qui a été ou la parole qui viendra. La parole qui est maintenant. Voyez, vous saisissez? Je suis, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, pas vrai? Je suis, Dieu m'a envoyé comme son prophète, pour confirmer que ceci est vrai. Je suis la réponse à cette parole. Donc, alors qu'il est venu ici pour le faire, et quand il l'a fait, Pharaon a dit, « Eh bien, nous en avons beaucoup de notre groupe qui peuvent faire ça aussi, des imitateurs. » Jésus a dit, « Or, cela se répétera dans les derniers jours. » Voyez-vous, ils vont prétendre la même chose. Remarquez qui est arrivé en premier. Remarquez qui est resté avec la parole. C'est ça. C'est comme ça qu'on reconnaît. Alors, voyez-vous, nous voyons que Moïse ne leur a jamais donné ce qui était de l'époque de Noé. Nous allons construire une arche maintenant, parce que c'est la parole. Vous savez, un jour, Noé a construit une arche. Non, ce sont les vautours qui se nourrissaient de ça. Non, 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 non. Ici, c'est une parole promise. Remarquez, pour son message qu'il avait reçu de Dieu, il avait la véritable parole de Dieu prédestinée pour cette heure-là. Jésus non plus, il ne leur a pas servi les restes de Moïse. Moïse avait la parole pour cette heure-là, mais Moïse était un prophète. Ici, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, il ne leur a pas du tout servi les restes de Moïse. Mais regardez les vautours de l'organisation là-bas, qui sont gavés. Nous savons, nous avons Moïse, nous n'avons pas besoin de toi. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez, parce que Moïse a parlé de moi. Ah là là, voyez? Où que soit le cadavre, les aigles s'assembleront. Les aigles, ce qui était fraîchement abattu dans la parole qui était suscitée et engraissée, et qui était manifestée et distribuée comme nourriture aux enfants. Mais le vieux cadavre qui est là, par terre, depuis des centaines d'années, il y restera. C'est pareil maintenant. Luther avait un message de repentance. Mais vous, bande de vautours luthériens, les baptistes avaient un message. Mais vous, vautours baptistes, voyez, les pentecôtistes avaient un message. J'approche du but là. Vautours pentecôtistes. Mais où que soit le cadavre, là, ça sembleront les aigles. Souvenez-vous, vous n'auriez pas pu nourrir un luthérien à cette époque-là. Maintenant, vous le pouvez. De charogne catholique. Non, monsieur, il avait de la viande fraîche. C'était cet âge de l'Église-là. Vous n'auriez pas pu nourrir les méthodistes du message de Luther. Oh non, ils ne voulaient pas de cette charogne. Elle est pourrie. Vous voyez, la vie en était déjà sortie et était allée dans quelque chose d'autre. Ça, c'est la vieille tige qui est morte là-bas. La vie, elle continue à avancer. Et vous ne pouvez pas nourrir l'épouse de Jésus-Christ de pentecôtisme. Non, pas du tout. Des organisations infestées de vers. Rien à faire. Non, non. Car la promesse est, et avant que ce jour grand et redoutable arrive, je vous enverrai Élie, le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères de nouveau. Toutes ces promesses qui avaient été faites dans la Bible, je le ferai. Et là, s'assembleront les aigles. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Voyez, Jésus n'a jamais essayé ça. Mais quand Jésus est venu, il a trouvé là des multitudes de vautours. Nous avons Moïse et la loi. Voyez, eh bien ça, c'était de la bonne nourriture, il y a très longtemps, quand elle avait été abattue, elle leur avait été donnée. Vous voyez, c'était très bien à cette époque-là. Mais voici ce qui avait été prédit à celui-là même qui avait abattu le sacrifice. Moïse, en ces mots, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Il arrivera que quiconque ne s'attachera pas à ce prophète et à ce qu'il dira sera retranché du milieu du peuple. » Et c'est arrivé. Regardez, environ 600 prophéties différentes de l'Ancien Testament se sont accomplis là, au sujet de Jésus-Christ. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Environ, je ne me souviens plus combien se sont accomplis, dans les 7 ou 8 dernières heures de sa vie, de ce que tous ces prophètes avaient dit parfaitement. Si je prophétisais aujourd'hui qu'une certaine chose arriverait dans un an, peut-être que j'ai 20% des chances que ça arrive, que ce soit vrai ou faux. Et si je prédisais que ça va arriver et que je ne dise pas quand, mon pourcentage est moins élevé. Si je prédisais quand ça va arriver, ça réduit ma marge. Si je prédisais l'endroit où ça va arriver, ça réduit encore la marge. Si je prédisais à qui ça va arriver, alors ça me laisse une marge d'à peu près une chance sur 100 000 que ça arrive, si ce n'est pas vrai. Et chaque parole, alléluia, qui a été écrite au sujet de ce Messie, s'est accomplie à la lettre. Même qu'au jour, en lisant les Écritures, il s'est arrêté en plein milieu de la phrase. Il a dit, « L'Esprit de Dieu est sur moi pour prêcher l'Évangile et pour apporter la délivrance au... » Et il s'est arrêté là, en plein milieu de la phrase, parce que le reste est pour sa seconde venue. Amen. Les cieux et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Vous voyez, il était la parole à cette époque-là, qui les nourrissait à cette époque-là. Moïse leur a dit la vérité, mais voyez-vous, ils en font toujours une dénomination pour que les vautours, il en reste encore, une fois que les aigles ont fini de manger et qu'ils sont rentrés à la maison. Alors, ils attendent de voir autre chose. La parole, ils disent, là, elle doit arriver. Hier, nous avons mangé du caribou. Demain, nous mangerons du mouton. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un vieux cadavre de caribou là-bas. Ils sont contents. Mais nous, on va manger du mouton aujourd'hui. Où est-il? Vous voyez ce que je veux dire? De la nourriture d'ange. Les gens qui mangeaient de la manne un jour, s'ils essayaient de la garder jusqu'au lendemain, elle se contaminait. Est-ce que vous ne voyez pas tous les types comme ils sont parfaits? C'est pareil maintenant. Remarquez, les vautours de l'époque de Jésus aussi, ils chassaient les démons. Des oints qui se nourrissaient du vieux cadavre. Pas vrai? Ils chassaient les démons. Jésus l'a dit. Et souvenez-vous, ils avaient des prophètes à l'époque. Caïphe, le souverain sacrificateur, a prophétisé. Combien le savent? Caïphe a prophétisé. Remarquez, la position de la mauvaise herbe dans le champ, elle se fait arroser par la même onction. Pourquoi a-t-il prophétisé, dit la Bible? Parce qu'il était souverain sacrificateur cette année-là. Un sale charognard, une mauvaise herbe et un chardon au milieu du blé. Mais l'Esprit était sur lui, le véritable Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu était sur lui pour prêcher, prophétiser et prédire ce qui allait arriver. Et il a renié et crucifié la parole même de l'heure, confirmée. Oh, miséricorde, frère! Combien de temps devons-nous encore passer à dire ces choses? Vous voyez, combien encore à parcourir les Écritures? Je vais me dépêcher. J'ai à peu près 10 pages ici de passage des Écritures pour prouver toutes ces choses. Le soleil, sur les justes et sur les injustes, les deux. Jésus a dit, pour prouver ceci, si moi, je chasse les démons par le doigt de Dieu, vos enfants, par qui les chassent-ils? Donc, ils chassaient les démons, ils prophétisaient, pas vrai? Mais ils n'ont pas reconnu qu'il était la parole de l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas partie de leur groupe. Maintenant, prenez Matthieu 24, 24. Il s'élèvera des faux Christ, des oints, et il y aura des faux prophètes qui le prophétiseront. Voyez-vous? Ils séduiront même les élus si c'était possible. Vous l'avez saisi maintenant? Remarquez, les enfants, par qui? Si moi, je chasse les démons par la parole de Dieu, et c'est ce qu'il était, la parole de Dieu. Vos enfants dénominationnels, par qui les chassent-ils? Bon, et Dieu seul peut chasser un démon. Ça, nous le savons, Dieu seul. En effet, l'homme fort doit être plus fort que l'intrus dans sa maison. Ils avaient la puissance de le faire. Vous savez, dans l'Apocalypse, là, il est dit que cet Antichrist qui s'était élevé dans les derniers jours, il faisait des prodiges et des miracles, qui avait même séduit ceux qui habitaient la surface de la terre, et qu'il avait séduit chacun de ceux, les chrétiens et tout, dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, la réponse à Matthieu 24, 24, dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Cette vie qui était dans la racine de ce véritable oranger, qui est monté dans tous ces agrumes et tout le reste, et qui a continué à monter pour mettre le fruit au haut de l'arbre, au-dessus de toutes les greffes et de toutes les branches dénominationnelles. Vous l'avez saisi? Je vais me dépêcher. L'homme fort, souvenez-vous de David, là, il était honnête, sincère, il essayait de faire un travail pour Dieu, mais il n'avait pas été établi pour le faire. Ils, les oints, mais Jésus a dit, ils enseignent comme doctrine l'interprétation des Écritures de l'homme. Vous voyez, pas la parole de Dieu, pas sa parole confirmée. Ils enseignent un Christ historique, vous voyez, quelque chose qui a été. Et la Bible a dit, il est, je suis, non pas j'étais ou je serai, je suis maintenant. Il est la parole qui vit à travers ceci. Il était au commencement, il était dans les pousses, il était dans les graines, il était dans la balle, mais il est maintenant dans le grain. Maintenant, on retournerait en arrière pour essayer de revivre? Qu'est-ce qui se passerait si cette vie redescendait? Est-ce que vous pensez que cette reste vie parlerait? Qu'elle retournerait à cette vieille balle toute sèche? Qu'elle retournerait pour revivre encore dedans? Elle ne le fait jamais. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui n'ont pas continué à avancer avec la parole, alors qu'elle s'accomplissait, ils sont morts, finis, et les épines et les chardons qui sont prêts d'être rejetés ont fini par y mettre le feu. Pas vrai? Maintenant, je me dépêche le plus possible. Remarquez l'écriture là. Ils enseignent un Dieu historique. Vous voyez, c'est comme s'ils essayaient de vivre dans le passé. Par exemple, eh bien, Wesley a dit telle et telle chose, ou un tel a dit telle et telle chose. Vous refusez la parole promise du jour, la manne, qui est clairement identifiée comme celle du jour. Ils essayent de mettre leur vieux vin luthérien, baptiste, pentecôtiste, dans nos outres neuves. Ça ne marche pas. Et notre vin nouveau, dans leurs vieilles outres, ça ne marchera pas. S'ils essayent de mettre ce vin nouveau dans la dénomination, leur folie est manifestée. Ils ne peuvent pas. Ça l'a fait éclater. Oh, frère, j'ai vu la parole de Dieu, parfaitement, selon la parole. Écoutez bien là, docteur, si nous ne pouvons pas permettre cela. Ned, je pense que tu en as eu l'expérience dernièrement. Nous ne pouvons vraiment pas permettre cela ici. J'aimerais mieux que, peut-être, vous continuiez simplement votre chemin. Vous savez, vous voyez, ça ne marchera pas. Ça éclate. On ne met pas une pièce de vêtement neuf à un vieux vêtement, parce que la déchirure s'étendrait partout. Vous voyez, Jésus ne l'a-t-il pas dit? Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Ça les fait éclater. Le vin nouveau contient de la vie. Bien. Remarquez quelque chose rapidement là, alors que nous arrivons à la fin de notre exposé. Remarquez, Apocalypse 16, 13 à 14, si vous voulez le noter. Je n'aurai peut-être pas le temps de le prendre. Je veux que vous vous assuriez bien de regarder ça. Maintenant, remarquez, c'est ce qui retentit entre la sixième et la septième coupe. Maintenant, nous allons terminer dans un petit instant. Si vous pouvez encore patienter seulement quelques minutes, nous terminons là. Remarquez, Apocalypse 16, 13 à 14, entre la sixième et la septième coupe, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Avez-vous remarqué ça? Sont sortis de la bouche de quelqu'un. Maintenant, remarquez rapidement. Êtes-vous prêts? Dites Amen. Une trinité d'esprits. Maintenant, frères dénominationnels, restez assis tranquille un petit instant. Ne vous levez pas pour sortir de la pièce. Vous qui nous êtes reliés par radio, par téléphone là-bas, n'arrêtez pas vos magnétophones. Restez assis tranquille un petit instant et écoutez. Si vous êtes né de Dieu, vous écouterez. Une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. Il ne regarde jamais où il va. Il regarde d'où il vient. Voyez? Vous voyez, n'est-ce pas? Où est-ce que la doctrine trinitaire a pris naissance? Souvenez-vous, trois esprits impurs, esprits distincts. Est-ce que vous saisissez? Remarquez, ils regardent en arrière, au concile de Nicée, là où la doctrine de la Trinité a pris naissance, pas dans la Bible. Cette chose-là n'existe pas. Ils regardent en arrière, au concile de Nicée, à Nicée, à Rome, là où la Trinité a pris naissance. Remarquez d'où ils viennent. Remarquez, et la Trinité de grenouilles est sortie d'une ancienne Trinité. Elle a donné naissance à une nouvelle Trinité, leur mère. D'où est-elle sortie? Une trinité, le dragon, vous voyez, la bête, est le faux prophète. Une trinité nouvelle. En effet, quand ces grenouilles sont-elles sorties? Quand ça? Remarquez, elles étaient là dès le début, mais ce n'est qu'entre la sixième et la septième coupe que ça a été manifesté, juste avant que les sceaux soient ouverts pour le révéler. Car par le message du septième ange, les mystères de Dieu seraient révélés. Toutes ces choses trinitaires, ces faux baptêmes et tout, devaient être manifestés. Que Dieu nous aide à voir la vérité et à ne pas penser que c'est quelqu'un qui cherche à dire quelque chose pour « Je sens cet esprit hostile face à cela ». Voyez-vous, Je ne parle pas de moi, frère. Je parle de l'ange du Seigneur qui est dans le camp. C'est tout à fait vrai. Remarquez, une trinité, le dragon. Combien savent ce que représentait le dragon? C'était Rome. Le dragon se tint devant la femme afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Pas vrai? Qu'est-ce qu'une bête représente dans la Bible? Une puissance. Très bien. Faux prophète. Un faux prophète. Un faux ouin. Voyez? Il a pris son départ où? C'est faux prophète au singulier. Faux prophète. Le premier pape. Et c'est de là qu'il y a eu la prostituée et la mère des prostituées. Tout. Une fausse trinité faisait son chemin. Pas au début. Elle ne serait pas manifestée au début. Elle continuerait à faire son œuvre. Mais quand les sept sceaux seraient venus et qu'ils dévoileraient ces mystères, elle les révélerait. C'est là que les grenouilles, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortiraient pour se manifester. Une doctrine trinitaire qui s'oppose à la vérité. Voyez? Hein? Vous voyez d'où c'est venu? Vous voyez vers où ça s'en retourne? Le concile œcuménique. Ils sont tous frères de toute façon. Les mêmes esprits, la même chose. Et regardez bien, une telle séduction, ils font des miracles, et ce sont des démons qui vont vers tous les dieux de la terre, qui font des miracles pour les séduire au dernier jour, et ils réussiront à le faire. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ce mauvais esprit? Il disait, « Je vais descendre et entrer dans la bouche de ces prophètes pour faire qu'ils prophétisent un mensonge, et qu'ainsi, Akab aille là-bas se faire détruire. » Dieu a dit, « Vas-y, tu réussiras. » Tu arriveras à leur faire croire ça. Ils n'ont pas la parole comme appui au départ. Voyez, vas-y, car tu vas le convaincre. C'est toi qui vas le faire, en entrant dans ces faux prophètes, parce qu'il se fie entièrement à eux. Et il ne connaît rien de la parole, et il n'essaiera pas non plus d'en apprendre quelque chose. Il ne peut pas le faire, parce qu'il est un chardon au départ. Voyez, tu réussiras. Regardez-les, ces fausses grenouilles, qui regardent en arrière. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont dit là-bas, à Nicée? Ça m'est égal ce qu'ils ont dit là-bas à Nicée. Moi, je dis ce qu'ils ont dit ici, au trône de Dieu. Ce qui doit être, pas ce qui a été, ce qui sera, car il est, je suis. Voyez? Faux. Regardez ça. Hein? Remarquez d'où ils sont venus. Maintenant, écoutez attentivement. Nous voyons clairement, après que les sept sceaux ont été ouverts, que ça doit révéler ce mystère. Qu'est-ce que cette Trinité? Voyez? Où est-ce qu'elle a déjà été appelée Trinité? Où, dans la Bible, est-ce qu'il est même prononcé le mot Trinité? Comment pourrait-il y avoir trois dieux, que nous adorions trois dieux, sans être des païens? Comment peuvent-ils être distincts, alors qu'il a dit, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous périrez dans votre péché. Vous voyez? Dans votre incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Vous périrez dans votre incrédulité. Oh, qui dis-tu que je suis? D'où dis-tu que je viens? Oh, connais-tu mon Père? Ou peux-tu dire son nom? Je suis la rose de Saron, l'étoile brillante du matin. Pouvez-vous me dire qui il est? Je suis qui parla à Moïse dans le buisson de feu ardent. Je suis le Dieu d'Abraham, l'étoile brillante du matin. Je suis la rose de Saron. Oh, d'où dis-tu que je viens? Oh, connais-tu mon Père? Ou peux-tu dire son nom? Amen. Je suis Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Je suis toute la création, et Jésus est son nom. C'est exact. Pas de Trinité. Non, monsieur. C'est une fausseté. Les sept sceaux, en dévoilant ces mystères qui devaient s'accomplir, ils mettent en évidence. Un sceau ouvert, ils dévoilent, ils mettent en évidence, ils montrent clairement les vérités cachées que les sceaux avaient cachées pendant toutes ces années, à travers toutes ces églises et ces dénominations. La grande prostituée d'Apocalypse 10, qui était-elle? Mais elle est aussi la mère des prostituées, voyez? Donc, vous les avez appelés des vautours, vous dites, frère Branham. C'est vrai. Mais rappelez-vous, un vautour est un oiseau. Lui aussi est ouin pour voler. Les deux esprits seront tellement proches que ça séduirait les élus. Un vautour est aussi gros qu'un qu'un aigle. Il peut voler comme l'aigle, et il est oint pour voler, ou pour prêcher, ou pour prophétiser. Remarquez, tout comme l'aigle. Mais il ne peut pas suivre l'aigle dans les hauteurs. Non, non. S'il essaye de suivre l'aigle, ses folies seront manifestées. Oui, monsieur, il ne peut pas suivre l'aigle. Oh, il peut dire, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ, son Fils, et ainsi de suite. » Oh, c'est sûr, ils peuvent faire ça. Mais qu'en est-il de dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Voyez, l'aigle est un oiseau bâti d'une façon spéciale. Il n'y a rien de semblable à lui sur la terre. Voyez, si un vautour essayait de le suivre, ou n'importe quel autre oiseau, il se désintégrerait. Ses folies seraient manifestées, là, c'est sûr. Il éclaterait quand il essaierait de mettre le vin nouveau dans une vieille outre. Vous voyez, il éclaterait. Il se désintégrerait. Il n'est pas conçu, il n'est pas... Son corps n'a pas la charpente qu'il faut pour tenir là-haut. Quand il pénétrera dans ces grandes sphères là-haut, s'il n'a pas été conçu, établi, prédestiné, un aigle de naissance, il va éclater. Voyez, ses ailes perdraient toutes leurs plumes et il tomberait par terre. Certainement. Il ne peut pas suivre l'aigle dans les hauteurs. S'il essaye de le faire, sa folie sera manifestée. C'est vrai, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Il ne peut pas voir comme l'aigle. À quoi ça sert de chercher à sauter très haut si vous ne voyez pas où vous êtes quand vous êtes là-haut? Et s'il devait essayer, ne serait-ce qu'essayer d'imiter cet aigle dans les hauteurs, là, il devient tellement aveugle qu'il est tout excité, mais il ne sait pas pourquoi. C'est vrai, il crie et il jubile et il se démène, mais prononcez-lui seulement la parole. Oh, c'est là que sa folie se manifeste. Parlez-lui du baptême au nom de Jésus-Christ. Ou dites-lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Tout ça. Et dites-lui, oh là, attends un peu. Voyez, oh oui, c'est là qu'il perd ses plumes. Vous voyez, il est là à sauter en l'air, à prophétiser, à chasser les démons, à parler en langue, à crier, à se démener, à courir de long en large. Mais qu'il n'essaie pas de suivre là-haut. Oh, c'est sûr qu'il va être manifesté. Pourtant, il est établi, il est oint, il peut voler, il peut tenir en équilibre, monter là-haut, mais pas seulement jusqu'à un certain point. Vous voyez, il peut manger de la charogne, mais il ne peut pas manger la nourriture fraîche qui vient du trône. Il est aveugle, il est tout excité, mais il ne sait pas pourquoi il est si excité. Vous voyez, le même esprit est descendu sur lui, comme la pluie, pour faire de lui du blé. Mais il n'est pas du blé au départ. Il éclate. Oh, je ne peux pas accepter. Oh, non, monsieur, je sais que le docteur Jones a dit. Très bien, allez-y. Voyez, allez-y, c'est comme vous voulez. Non, remarquez, il n'est pas né, ou bâti, ou prédestiné à être ce genre d'oiseau-là. Il peut être un citron qui pousse sur un oranger. Seulement, il ne vient pas des racines. Il est quelque chose qui a été ajouté. Et quand ils montent tellement haut dans leur dénomination qu'ils ne peuvent pas voir la parole de Dieu prédestinée, confirmée, c'est là que leur folie est manifestée. Oh, ces histoires-là, un halo au-dessus de la tête et tout. Oh, cela ne tient pas debout, voyez, manifesté. Il n'est pas bâti pour voir aussi loin. Il ne peut pas voir plus loin que ce que ses lunettes dénominationnelles lui permettent de voir. Mais plus loin que ça, il est myope comme une taupe. C'est à ce moment-là que sa folie est manifestée. Voyez, c'est là que le vrai aigle s'assoit pour manger. Oui, monsieur, c'est là que les vrais aigles élus voient ce qu'il est. Étant donné qu'il ne peut pas recevoir cette parole, ils savent tout de suite qu'il est un vautour dénominationnel. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas voler? C'est parce que, regardez de quoi il s'est nourri. Il s'est nourri de charogne dénominationnelle pourrie. Ça ne spiritualise pas son corps. Ça ne lui donne pas la santé spirituelle, autrement dit, pour l'élever au-dessus des différences dénominationnelles. Voyez? Vous voyez, il s'est nourri de pourriture. C'est tout. C'est de ça que son corps est fait. Il ne peut pas monter là-haut, où cette viande fraîche permet à l'aigle d'aller. Il ne peut simplement pas. Voyez? Voilà l'accomplissement de Matthieu 24:24. Il vole, il saute en l'air, il bat des ailes, mais il ne peut pas monter assez haut. C'est tout. Voyez, c'est vrai. Vous voyez, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas monter assez haut pour recevoir cette manne fraîche. Il peut manger de la vieille manne qui est ici, en bas, sur le sol, les vieux lapins morts qui ont été écrasés il y a une semaine, il y a un mois ou il y a 40 ans, de la matière contaminée. Il peut manger ça et s'en gaver et glousser et crier et faire toutes ces choses bizarres et sauter en l'air et voler comme un autre aigle. Il est oint comme un autre oiseau et c'est ce qu'il est, un type de l'aigle. C'est ça que le vautour est. Nous le savons, certainement que c'est ce qu'il est. Seulement, il ne peut pas suivre cet aigle véritable. Voyez, il ne peut simplement pas. Non, monsieur. Son corps n'est pas développé. Il s'est nourri de différentes charognes, vous voyez. Et ce ne sera pas, ce ne sera pas la viande fraîche, la manne fraîche. Ce sera quelque chose que Luther a dit, que Wesley a dit, ou que le docteur Untel a dit. Il ne se nourrira pas de ce que Jésus a dit pour cette heure. Allons-y maintenant, terminons. Des oints, des Christs, dans les derniers jours, mais les faux enseignants et faux prophètes. Remarquez comme c'est saisissant. Maintenant, je veux que vous compariez ceci. Nous n'avons pas le temps de le lire ensemble. Matthieu 24, 24 avec 2 Timothée 3, 8. Dans Matthieu 24, 24, il est dit que, dans les derniers jours, vous voyez, il viendra des faux Christs, des faux oints, des faux prophètes. Et ils feront des prodiges et des miracles, exactement comme le vrai, le vrai. Et ils vont presque séduire même les élus. Maintenant, remarquez, c'est Jésus qui parlait. Et voici Paul, tout de suite après lui, qui dit, « Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l'apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines. » Et ils se demandent, ils disent, pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes? Oh, bonté! Mais ils ne le voient même pas. Ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce, loin des choses comme de... Vous voyez? Et de même que Jannès et Jambres, Matthieu 24, 24, des faux Christ, des faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Or, de même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même. D'un esprit réprouvé en ce qui concerne la foi. Pas une fois, la foi. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul bas. Vous ne pouvez pas avoir une seule foi sans croire en un seul Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père et pour le Fils, le Saint-Esprit, un seul baptême, Jésus-Christ. C'est vrai, vous voyez, un faux baptême. Remarquez, comparez-les entre eux, là, quand vous rentrerez chez vous. Remarquez, Matthieu 24, 24, Jésus qui parle, Paul, 2 Timothée 3, 8, beaucoup d'autres. Et là, comparez ça. Et puis, notez un autre passage de l'Écriture, Luc 17, 30, Malachie 4. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, la parole de leur ointe. De même, ces hommes, pas un homme, mais des hommes, des oints, s'opposeront à la vérité. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Lisez-le quand vous rentrerez chez vous. Le message du septième ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça qui semble vous être tellement difficile. Voyez-vous, pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager, révèle le Fils de l'homme au public, parce qu'il est sorti de la balle. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grain lui-même, de nouveau. Et en ce jour-là, Jannès et Jambres s'opposeront. Des oints, des soi-disant croyants et des incroyants, l'église formaliste et les pentecôtistes, s'élèveront contre le grain véritable. Mais laissez-les faire. Leur folie sera manifestée, comme la leur l'a été. Voyez, vous comprenez maintenant? Dans Apocalypse 10, il est dit « au jour de la voix du septième ange ». Maintenant, souvenez-vous, le septième, l'âge de l'église de Laodicée. La voix de cet ange-là, quand cet âge de l'Église-là est déjà entré dans la dénomination et qu'il est devenu un âge de l'Église, quand il est déjà installé dans son organisation pentecôtiste, quand le messager pour cette, chaque messager, qu'est-ce qu'il était? Martin Luther, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux catholiques. Wesley, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux luthériens. La Pentecôte, qu'est-ce que c'était? Un blâme adressé aux autres, là. Maintenant, où est-ce que la vie est allée? Elle s'est éloignée de l'organisation. Plus de balles, c'est le grain. Qu'est-ce que c'est? Un blâme adressé aux pentecôtistes, vous voyez, pour accomplir l'écriture de cette heure-ci, voyez? Remarquez, le jour même où ce messager, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message, voyez, le premier poule, la guérison, le deuxième poule, la prophétie, le troisième poule, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième poule, c'était l'ouverture de ces sept sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez-vous? C'est à ce moment-là, à l'époque où cette chose-là doit arriver, que Jannès et Jambres, les imitateurs, feront de nouveau leur apparition. Exactement comme ils avaient fait quand Moïse est arrivé avec la parole originelle pour la prononcer. Ils arrivent pour en faire une imitation. Tout à fait vrai. Maintenant, Matthieu 24, 24. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez? Des oints. Bon, il y a trois choses que nous allons dire avant de terminer. Les voici. Je veux que vous écoutiez très attentivement maintenant, comme nous terminons. Trois choses, souvenez-vous, trois choses se sont accomplies. Trois choses ont maintenant été portées à votre attention. Premièrement, le monde est dans un état sodomite. Jésus a dit que ça arriverait. Regardez la perversion. Nos femmes qui essaient d'agir comme des hommes. Nos hommes qui essaient d'agir comme des femmes. Efféminés. Pourri, souillé, méprisable, possédé du diable, et ils ne le savent pas. La Bible a dit que ça arriverait, et on en est là. Deuxièmement, c'est à cette heure-là, selon l'Écriture, ici, que Jannès et Jambres font leur apparition. Deuxièmement. Troisièmement, c'est à cette même heure que le Fils de l'homme doit être révélé. Voilà votre croyant. Votre soi-disant croyant et votre incroyant. Il y a une parole véritable qui se distingue, confirmée. Il y a le soi-disant croyant qui en fait une imitation. Et il y a l'incroyant qui rejette tout en bloc. Mais vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. Pas vrai? Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que notre Bible a prédits. Et les jours des gentils sont comptés. Sodome. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes leur manque. Ils ont peur. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Vos lampes préparées et lumineuses pour voir la parole de l'heure. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Ils avaient dit qu'ils seraient là, des oints. Ils nient la vérité de Dieu, que Jésus-Christ est notre Dieu. Ça, ils ne le croient pas. La Bible a dit que cette chose-là arriverait. La voilà. Mais nous suivrons les traces des apôtres, la même lumière. Il ramènera la foi des pères vers les enfants. Le jour de la rédemption est proche, tellement proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. La terre est en train de s'enfoncer. Oh, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Est-ce que vous croyez ça? Alors, courbons la tête. Là-bas, dans le pays, partout où va ce message, de la côte est à la côte ouest, de la Californie à New York, très loin au sud et au nord, là-bas dans les missions, partout où il va, et dans ce tabernacle, nous sommes pauvres, Nous n'avons pas toutes ces parures, ces grandes choses-là, et ces émissions de télévision. Nous essayons seulement de faire de notre mieux. Mais tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous, qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi, vu que c'est moi qui apportais ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix, contre mon propre gré même, j'aurais voulu être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais. C'est seulement que je me suis abandonné et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le septième ange. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps-parole infaillible du Fils de l'homme. Si vous ne vous êtes pas nourri pleinement de chaque parole, afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions? Père bien-aimé, c'est une chose difficile. Ce n'est pas facile à faire pour un mortel. Tu connais toutes choses. Et je te prie, Dieu bien-aimé, de faire en sorte que ce ne soit pas mal compris. Mais puissent les gens marcher à la lumière de ta parole. Et Dieu notre Père, je ne sais pas qui sont les élus. Toi, tu le sais. Je ne connais pas le moment de ta venue. Mais tout ce que je sais, c'est que tu as dit que lorsque ceci se produirait, ces faux oints, pas quand, ils n'en seraient qu'à leur début. Moïse les a simplement laissés faire, car ils ne pouvaient rien faire de plus. Ils pouvaient seulement dire ce que toi, tu disais. Tu lui as dit de faire venir des puces, ensuite eux en ont fait venir. Tu lui as dit de changer l'eau en sang, ensuite eux l'ont fait. Moïse n'a fait qu'exécuter, mot à mot, ce que tu avais dit. Mais après, c'est toi qui as manifesté leur folie. Or, Père, tu es encore Dieu. Cette même parole a annoncé que ceci arriverait dans les derniers jours. Beaucoup de gens honnêtes, comme nous le disions dimanche dernier, ont manipulé cette arche, mise sur un char neuf, et non pas sur les épaules des Lévites. Et ils sont tombés morts, morts par leurs péchés et leurs offenses. Ils s'opposent à leur propre conscience. Bien des prédicateurs, assis dans leur bureau, lisent la parole. Elles se dépêchent de tourner la page pour éviter d'être forcés de passer à l'attaque, sachant qu'il perdrait sa position sociale face au public, à son église, à sa dénomination. Que Dieu nous aide à ne jamais faire ça. Purifie notre cœur, Seigneur, de toute souillure du monde. Seigneur, je suis prêt à être purifié. Je suis prêt, ainsi que cette église et tous ceux qui sont à l'écoute et tous ceux qui écouteront cette bande. Je me tiens là, Seigneur, et je te demande de me purifier. Seigneur, emmène-moi dans la maison du potier et brise-moi, façonne-moi pour faire de moi un serviteur tel que tu le veux. Car, Seigneur Jésus, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Comme Ésaïe s'était écrié, j'habite avec un peuple dont les lèvres sont impures. Et malheur à moi, car je vois la révélation de Dieu manifestée. Comme Ésaïe, qui avait vu les anges dans le temple, je vois le temps de la fin, Seigneur, et malheur à moi et à ma famille, malheur à moi et à mon peuple. Ô Dieu éternel, aie pitié de nous, je t'implore, pour moi-même et pour le peuple, que nous ne périssions pas avec ceux qui ne croient pas, mais que nous vivions avec les croyants. Chaque dénomination, Seigneur, Chaque homme ou femme, je ne peux pas te demander de bénir une dénomination, alors que je sais que tu es contre ça. Mais tout ce que je peux dire, Seigneur, si tu as de tes brebis, qui sont de leur nombre, puisse-t-elle écouter cette bande? Puisse-t-elle écouter cela, Seigneur, et le comprendre par la compréhension que tu leur donneras, et puisse-t-elle sortir de là et te recevoir? Qu'elle ne soit pas séduite par l'aveuglement et la tradition de cette époque. Qu'elle n'essaye pas de manger quelque chose qui, ou d'un cadavre d'une autre époque. Qu'elle prenne la parole. C'est comme ça que les pharisiens t'ont crucifié, Seigneur. Ils prenaient le cadavre de l'époque de Moïse. Ils essayaient de s'en satisfaire. Après que tu avais donné le type dans le désert de la manne fraîche chaque soir, ce qui représentait chaque génération, c'est là qu'ils ont échoué. Ça les a empoisonnés, ça les a tués, de manger de cette nourriture contaminée. Et spirituellement, ça fait la même chose aujourd'hui. Ça les tue spirituellement par une dénomination. Aide-nous, Dieu bien-aimé. Tout est entre tes mains maintenant, au nom de Jésus-Christ. Avec nos têtes inclinées, nous allons chanter ça pendant que vous prenez votre décision. Irez-vous jusqu'au bout? La voix du Seigneur. Et il est la parole. M'appelle. Prends ta croix. Oh, j'ai erré longtemps, mais en ce moment, c'est vrai, je l'entends. Venez à moi, vous tous qui avancez à tâtons. J'entends, prends ta croix, suis-moi chaque jour. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la fraîcheur des verts pâturages et près des eaux paisibles. Et jusqu'au bout, je veux te... Seigneur, je vois la folie trinitaire. Je vois que le monde entier en a été ensemencé. Il y a de la mauvaise herbe qui pousse partout. Mais là où tu me conduiras maintenant, Seigneur, je serai comme ceux d'Acte 19. Sur ces paroles, ils furent rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Où vivre? J'ai fait une partie du chemin, Seigneur, assez pour te recevoir. À toi, Jésus, pour toujours. Dieu bien-aimé, j'ai confiance que ça venait de mon cœur. J'ai confiance que ça venait du cœur de tous ceux qui sont en train de chanter en ce moment. Peut-être de beaucoup qui entendront cette bande, qui ne sont pas présents ou ne l'entendent pas en ce moment. Puissions-nous être prêts à le faire, Seigneur, quel que soit le prix. Il a dit, c'est comme un homme qui doit affronter une autre armée, un soldat, un roi. D'abord, il s'assoit et il fait le calcul. Est-il capable d'y parvenir? Est-il capable de renoncer aux choses du monde? Pouvez-vous renoncer, vous joindre à l'armée de la parole écrite de Dieu, marcher avec ses soldats, voler avec ses aigles? Accorde le Seigneur, au nom de Jésus. Vous croyez? Vous l'acceptez? Très bien. Nous vous reverrons ici ce soir, si le Seigneur le veut. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Est-ce assez clair? Alors, revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout. Maintenant, serre la main à quelqu'un près de vous, là. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre. L'espoir de la terre. La joie du ciel. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre. Joie du ciel. Au nom de Jésus, nous courbons. À ses pieds, tous prosternés. roi des rois. Nous le couronnerons. Il est Dieu alors. Notre voyage terminé. Précieux nom, précieux nom. Nom si doux, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Je pense que tous les prédicateurs ont été mentionnés ce matin, que je les ai tous salués. Quand un homme a prié toute la semaine, qu'on a été là à se demander ce qu'il en est, qu'on voit ces passages des Écritures, qu'on les voit clairement devant soi. « Malheur à moi, » a dit Paul, « si je n'annonce pas l'Évangile. » Au bout du chemin, il a dit, « Je vous annonçais tout le conseil de Dieu, tel qu'il m'a été donné, sans en rien cacher. » Il m'arrive parfois d'oublier de mentionner des choses, de faire des présentations, de consacrer les bébés. Billy a dit l'autre jour, un homme est venu. Il disait, « Ça fait 2 ans que je viens ici, pour faire consacrer mon bébé. » Billy a dit, « Ne vous en faites pas pour ça. J'ai un bébé d'un an et n'a pas encore été consacré non plus. Alors je pense que je vais simplement attendre qu'il soit assez vieux pour s'avancer lui-même. » Alors, nous voyons, frères, sœurs, ce n'est pas, vous voyez, chose certaine, nous devons consacrer nos enfants. Nous devrions baptiser tout le monde. Il y a un baptistère, voici de l'eau. Si tu n'as pas été baptisé, qu'est-ce qui t'en empêche? Voici de l'eau. Venez tout de suite, n'attendez pas à ce soir. Venez tout de suite. Il y a des hommes qui sont ici, prêts à baptiser quiconque s'est repenti et a fait sa confession. Si vous avez été baptisé 12 fois, ils vous baptiseront au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Voyez, nous avons ce qu'il faut. Mais vous voyez, moi, ce que j'ai à cœur, c'est le message. Je dois l'annoncer. C'est mon seul but. Peu importe ce que dit mon épouse, ce que disent mes enfants, ce que dit mon pasteur, ce que dit mon je ne sais quoi, c'est ce que dit mon Seigneur. Je dois annoncer cela. C'est mon seul but. Et donc, bien des fois, j'oublie de saluer les prédicateurs. Je pense que peut-être notre frère Fresneville, un précieux frère, les autres frères qui sont ici, nous sommes contents de vous avoir avec nous. Si nous sommes en désaccord avec vous, frère, ce n'est pas par esprit de contradiction. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes peut-être des prédicateurs trinitaires. Nous ne voulons pas nous fâcher contre vous. Nous vous aimons. Sinon, si je ne le croyais pas, je ne sortirais jamais de cette église. Avant d'être tombé à genoux pour dire, « Oh Dieu, redresse-moi. Je ne veux pas qu'un esprit arrogant, égoïste, se mêle au mien. Je veux que mon esprit soit pur et propre, avec de l'amour fraternel, saint par le Saint-Esprit. Maintenant, si quelqu'un me fait du tort, ça ne fait rien. Et bien que je puisse être en droit de me venger, je ne veux pas de ça dans ma vie. Non, je veux avoir de l'amour. Je veux être prêt à corriger dans l'amour. Dans l'amour, c'est ce qui répondra entièrement de ça, de l'autre côté. Ce n'est pas pour vous contrarier. Qui que vous soyez, méthodiste, baptiste, catholique, presbytérien, je ne dis pas ces choses-là par esprit de contradiction. Si c'était le cas, je suis un hypocrite. Et je devrais être ici, à l'autel, en train de prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Mais si je dis ceci, c'est par amour. Et parce que je vois où vous vous dirigez. Maintenant, je ne le dis pas de moi-même. Et je ne le dis pas en faisant des suppositions. Je vous donne l'ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. Et je vous aime. C'est la raison de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons chanter un autre couplet de ce chant-là avant de partir. Nous aimerions que vous reveniez ce soir, si vous le pouvez. Sinon, que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Nous prions simplement Dieu de vous bénir et de vous donner ce qu'il y a de meilleur dans son pays. Vous voyez? Revêt-toi du nom de Jésus.